Chloé, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Alors, je veux te dire que tu es une des personnes qui a été les plus demandées, si ce n'est la plus demandée sur mon podcast. À chaque fois que je disais qui est-ce que vous aimeriez voir sur le podcast? Et Chloé, Chloé, Chloé. Donc, je suis trop contente qu'on ait
Cool.
réussi à le faire. Pour te présenter un peu, même si la plupart des gens savent ce que tu fais, mais je vais parler un peu de ce que tu fais. Tu es entrepreneuse, conférencière, tu as écrit un livre, je crois. Déployer l'amour de soi. Tu es aussi l'hôte du podcast La vie suffit. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous partager un peu de ton histoire et nous dire comment t'en es venue à faire ce que tu fais aujourd'hui?
Ouais, vaste sujet. Déjà, alors juste déjà, merci de me présenter parce que c'est l'exercice que j'aime le moins
Ouais, je
faire.
sais, moi je déteste qu'on me
Franchement,
demande. Je
c'est à chaque fois on
déteste,
me dit,
ouais.
hey, tu peux te présenter? Je ne sais pas comment me
C'est
présenter
vrai, c'est
parce
dur, hein.
que c'est super dur en fait quand tu touches à différentes choses. Alors mon histoire. J'ai pas une histoire de fou. Je pense que la chose qui m'a emmenée ici, c'est juste que j'ai fait des études, j'ai toujours été très bonne à l'école, j'ai beaucoup été, tu sais, dans le syndrome de la bonne élève qui doit faire des études, qui doit pas décevoir papa-maman, qui va faire des études après son bac, avoir un poste à responsabilité, etc. Ce qui fait que, je sais pas, à 22-23 ans, j'étais responsable sur la moitié France dans un laboratoire français à manager les équipes sur la moitié de la France. Je bougeais de partout, j'étais tout le temps dans l'avion, dans le train, dans le bus, enfin, tu vois, un peu tout ça à l'hôtel. Jusqu'à faire un burn-out, en fait, pétage de câble. Un jour, je ne pouvais plus me lever de mon lit, crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Et en fait, en parallèle de ça, moi, j'avais découvert Instagram et je commençais à partager un peu ma fitness journey. Tu sais, à l'époque, j'étais en mode fitness, go muscu
Ouais,
et
j'ai
tout,
vu
un truc
ça,
de
c'est
fou,
vrai.
ouais. Et je partageais ça. Et en fait, pendant mon burn-out, j'ai eu 2 mois et demi d'arrêt maladie. En fait, au bout de 3 semaines, je me suis rendu compte que l'arrêt maladie, c'est pas que ça servira à rien, c'est qu'en gros, ça ne résoudrait pas le souci, tu vois. Donc, j'ai donné ma démission. Et quelques semaines, mois plus tard, je me suis lancée en proposant en fait les choses que je faisais et que j'avais aussi apprises dans mes études, notamment autour de l'alimentation, etc. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, à proposer des choses autour de la naturopathie, de l'alimentation, du bien-être, de la détox. Et puis au bout d'un an d'entrepreneuriat, ça marchait bien pour moi et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus envie de rester en France, que j'avais envie de voyager. Donc je suis partie en Australie et en Australie, je me suis rendu compte qu'en fait, tout le domaine dans lequel j'avais commencé à entreprendre, c'était cool, mais que c'était qu'une petite partie de moi et que moi, j'avais envie de pouvoir parler de plus de choses. Et donc, bah, toi-même, tu sais, j'ai commencé à parler de spiritualité, développement personnel, puis juste mon cheminement, en fait, tu vois, juste les questions un peu que je me posais, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, ben, une chose en emmenant une autre, en fait, voilà, aujourd'hui, on en est là. Voilà.
C'est hyper intéressant et moi je trouve ça toujours intéressant parce que tu vois, quand on te voit sur les réseaux sociaux, je trouve que tu as une aisance aujourd'hui, tu dégages une certaine un certain alignement et je trouve que c'est vraiment hyper important parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mais tu vois, on a tendance à se dire, bah, elle a toujours été comme ça, cette fille. Enfin, elle a toujours été hyper alignée, confiante. Même si je trouve ça incroyable la manière dont tu parles aussi de tes insécurités, de tes parts d'ombre, etc. Est-ce que dans ton parcours, il y a eu un moment où tu t'es. Ça a été quoi les éléments déclencheurs, s'il y en a eu, où tu as commencé à vouloir plus t'exprimer justement sur. Ce chemin introspectif, quitter tes parts d'ombre, toutes ces choses-là que tu partages aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
Juste pour rebondir sur ce que tu as dit au début, c'est vrai que c'est très facile de croire que ça a toujours été facile pour les gens, tu sais, qui portent leur voix, qui ont confiance en eux. Puis c'est très facile de croire qu'ils ont confiance en eux, tout ça parce qu'ils s'expriment.
C'est vrai.
Mais bon, tu le sais aussi très
Ouais,
bien,
complètement.
c'est pas le cas. C'est pas qu'on n'a pas peur, c'est pas qu'on a absolument confiance en nous tout le temps, pas du tout. C'est qu'en fait, bah, on y va quand même, quoi, et on fait quand même les choses,
Exactement.
et que voilà, et ça reste quand même un travail constant à faire. C'est aussi pour ça que j'essaie vraiment de partager aussi mes difficultés pour que les gens se rendent compte que non, en fait, c'est pas juste ça y est, je suis devenue the queen, alignée, facile, enfin, pas du tout, tu vois. Il n'y a pas eu de big élément déclencheur. Il y a eu une succession de choses. Il y a une chose qui me semble être importante à déposer, c'est que c'est une citation que j'ai lue hier soir et je me dis ça, putain, ça c'est quand même vrai. C'est qu'en fait, alors c'est en anglais que je l'ai lue, mais je vais essayer de la faire en français. C'est en fait, il faut des trous du cul dans ta vie pour t'aider à poser des limites. Tu vois?
Pas mal
Et en
ça.
fait, moi, ce truc, ça a vibré fort chez moi parce qu'en fait, il a fallu des épreuves et des moments difficiles. Il a fallu que j'aie des gens qui me critiquent, qu'il y ait des gens qui me rabaissent, de l'adversité, des difficultés dans l'amitié, des difficultés dans la relation amoureuse aussi, pour qu'en fait, ça me donne de plus en plus envie de porter ma voix, que ça me donne de plus en plus envie de travailler sur moi. Tu vois, un des gros éléments déclencheurs avant que je fasse ce travail-là, ça a été une relation amoureuse qui s'est très, très, très mal terminée, avec beaucoup de violence physique, beaucoup de violence verbale. Enfin, voilà, ça a été extrêmement douloureux physiquement, émotionnellement, etc. Ça m'a fait atteindre un point de rupture en mode, OK, là, t'es tellement pas bien dans tes baskets, tu te respectes tellement pas à rester dans des relations comme ça qu'en fait, il va falloir aller voir ce qui se passe vraiment, tu vois. C'est toi le dénominateur commun à tous ces cercles, ces cycles toxiques, quoi. En fait, si tu veux. Donc ça, ça a été un des éléments déclencheurs. Il y a eu des vagues de haters que j'ai eues en 2018 qui m'ont aidée en fait, à porter encore plus ma voix parce que je me suis rendu compte que ça venait appuyer exactement là où j'avais besoin moi, de m'exprimer. Il y a eu des décès dans ma famille. L'année dernière, il y a eu la maladie de ma maman. On a découvert qu'elle avait un cancer. Donc ça m'a fait un énorme déclic en mode « Mais en fait, attends, mais terminé de me prendre la tête pour des trucs qui n'en valent pas la peine. Moi, je veux être une femme libre. Je veux être une femme qui rayonne. Je veux être une femme qui arrête de se prendre la tête, qui arrête de se diminuer pour rassurer les autres, c'est terminé. Donc tu vois, si tu veux, c'est plein de petits trucs déclencheurs comme ça. Tous ces petits trous du cul. Ça, il y a ça. Puis toute l'adversité. Et puis en fait, il y a aussi tout ce qui était découverte et curiosité. Le seul truc en fait que j'ai quand même envie de déposer, c'est que je pars pas de zéro. Dans le sens où j'ai eu un socle familial qui a été super stable. Donc j'ai eu cette chance-là. Je trouve que j'ai tout eu de la part de mes parents. J'ai pas eu de grandes difficultés. Bien sûr, j'ai des blessures comme tout le monde, tu vois. Mais j'ai grandi vraiment avec un socle familial qui a été stable. Et il y a un truc, moi, qui m'habite depuis toujours, qui a toujours, toujours, toujours été là, et je ne sais pas comment l'expliquer, c'est qu'en fait, je suis prête à tout pour être plus et être libre. Je suis prête à tout pour ça. Je suis motivée et drivée, mais depuis que j'ai 2 ans, tu vois, presque, par un truc, moi je veux bouffer la vie, donc je voudrais toujours plus, je voudrais toujours bouffer la vie, profiter au maximum, m'étendre au maximum, me déployer au maximum, vivre intensément au maximum. J'ai toujours eu ce truc là et je crois que c'est mon feu aussi, enfin, c'est le truc qui me motive aussi à y aller, quoi, tu vois.
Complètement, complètement. Mais je résonne trop avec ce que tu dis et je suis curieuse de savoir si est-ce que tu as toujours été à l'aise avec ce feu-là, avec cette envie-là de croquer la vie, d'en avoir plus ? Je te pose cette question parce que je sais que moi, personnellement, je me suis beaucoup jugée pour ça. Je me suis beaucoup mis un peu cette croyance de « il faut pas que je le montre ou c'est pas bien », tu vois. Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec ça ?
Tu sais, je résonne beaucoup avec ce que tu dis parce que je crois qu'on est quand même, enfin en tant que femme, on est quand même beaucoup éduquée et conditionnée à beaucoup nous minimiser. Tu sais, c'est encore, il n'y a pas si longtemps que ça qu'une femme, ça devait être doux, discret, à sa place, pas faire de bruit, avoir des rôles à la maison. Enfin, ça remonte, il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Il y a encore des cultures dans lesquelles c'est le cas. Donc je crois déjà qu'on est quand même très conditionnée avec ce truc de faut pas faire de bruit, il ne faut pas prendre trop de place. Donc il y a ça. Et même quand dans ta famille, tu es éduquée, tu vois, à te pousser, à porter ta voix, etc., il y a un truc que je répète souvent, c'est que quand tu as envie de beaucoup, quand tu es intense, quand tu as envie de plus, quand tu es ambitieuse, mais je parle même pas d'ambition, parce que tu vois, même quand j'avais 7 ans, c'était un truc que j'entendais. Quand tu es spontanée, quand tu as envie de comprendre pourquoi, quand tu poses trop de questions, quand tu dis les choses, ça fait chier tout le monde, en fait.
C'est vrai.
C'est ça qu'il faut dire. C'est trop vrai. Ça fait chier tout le monde. Donc non, moi, j'ai pas du tout été à l'aise avec ça. Et au contraire, je crois que c'est un peu, tu sais, le travail de ma vie d'apprendre à assumer pleinement ce truc. Et je sais que c'est pas encore tout à fait assumé. C'est ce truc de me dire, en fait, comment est-ce que je peux assumer ça et ne pas prendre à ma charge les insécurités des autres concernant ça. Mais j'ai pas toujours été à l'aise. J'ai toujours entendu des trucs quand j'étais petite chez mes grands-parents de « Tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Arrête de poser des questions. Tu poses trop de questions. » Pourquoi t'en veux plus ? Contente-toi de ce que t'as, reste à ta place, sois sage. Tout ça, c'est des injonctions que j'ai aussi entendues, même si en fait, ça part pas d'une mauvaise intention, tu vois, à proprement parler. J'ai beaucoup entendu ça, j'ai toujours eu bavardage sur mes cahiers d'école, parce que moi, je posais trop de questions, puis j'étais pas d'accord avec le maître, pas d'accord avec la maîtresse, puis je comprenais pas les règles à la con qu'on nous donnait, tu vois.
Ouais.
Ça a toujours été des choses comme ça, et bien sûr, ça dérange, bien sûr, ça dérange. Bavardage, t'en fais trop... Tu vois, dans plein de relations amicales, depuis que je suis petite, j'ai entendu des choses du style tu as trop confiance en toi, laisse de la place aux autres, tu prends trop de place. Donc, tu vois, c'est des choses que tu incorpores petit à petit à ta personnalité. Et tu dis, OK, bon, d'accord. Ou tu n'es jamais satisfaite, t'en demandes trop, tu as trop d'attentes. Et ce qui est vrai, en fait, parce que pour beaucoup de gens, les gens peut-être comme toi et moi, on a trop d'attentes, on a besoin de plus, on est intense, on a besoin que ça aille vite. Et c'est aussi quelque chose qui gêne, et même dans la relation de couple, en réalité, c'est un truc qui n'est pas simple, tu vois. Quand on ne va pas au même rythme et que moi, ça va vite et que j'ai besoin de plus et que la personne, elle a besoin d'aller plus lentement, bien sûr, ça crée des frictions un peu partout. Donc, je n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Et je crois que c'est vraiment un chemin de déconstruction et reconstruction, tu vois, de plusieurs années, de se dire, en fait, attends, c'est qui je suis, c'est mon essence. Moi, je veux bouffer la vie avant qu'elle me file entre les doigts, en fait, tu vois.
J'adore ce que tu dis. Moi, je trouve ça hyper déculpabilisant parce que quand je t'entends parler, ça me donne indirectement la permission aussi d'accueillir et d'accepter cette part de moi que j'ai beaucoup rejetée, où je me disais, mais c'est pas bien, il y a quelque chose de pas bien dans tout ça. Parce que tu t'entends tellement de remarques, t'as tellement de gens qui te disent, mais il faut te contenter de ce que t'as. Et c'est pas que t'es pas content de ce que t'as, mais c'est que moi, je trouve que c'est un amour pour la vie aussi, tu vois.
Exactement, mais t'as tout dit. Mais c'est exactement ça, en fait. Il y a un monde entre se contenter de ce qu'on a et vouloir plus. Et en fait, nous, enfin, j'ai pas envie de parler pour toi, mais je crois percevoir dans ce que tu me dis aussi que c'est ce truc de je suis contente de ce que j'ai, mais je sais qu'il y a plus, pourquoi est-ce que j'en profiterai pas non plus ?
Ouais.
C'est comme c'est pourquoi je vivrais dans 2 mètres carrés si je sais que je peux vivre dans 1000 mètres carrés, en fait. Inconcevable.
Exactement.
Je veux dire, c'est un non-sujet. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question ? Pourquoi est-ce que je vivrais moins si je sais que je peux avoir plus ?
C'est ça, mais il y a une honte autour du fait de vouloir, d'en vouloir plus.
Bien sûr.
Et surtout, comme tu dis, en tant que femme, je trouve, parce que c'est presque attendu d'un homme, et c'est pas pour créer une division ce que je dis homme-femme, mais c'est plus une observation que j'ai de, pour un homme, c'est presque attendu qu'il en veuille plus. Pour une femme, il y a quelque chose d'un peu honteux à en vouloir plus. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Ça a eu quel impact pour toi d'assumer un peu plus cette part de toi ?
Je crois que je vais voir les résultats, enfin, je vais voir les bénéfices peut-être tout au long de ma vie, je ne sais pas trop, mais ce que ça a changé, tu sais, c'est un espèce de sentiment de... Je suis touchée, tu vois, quand j'en parle, parce que c'est encore vraiment quelque chose en cours, tu vois. Ça crée un espèce de sentiment de... C'est bon, j'ai le droit, quoi.
Je te comprends.
Tu vois, tu sais, ces culpabilités et honte, tu vois, qui sont super insidieuses, qui se mettent un peu partout, c'est comme si ça s'enlevait et c'est un espèce de soulagement, une respiration de, en fait, c'est bon, en fait, j'ai le droit, en fait. Je ne suis pas une imposture, en fait, j'ai le droit de penser comme ça, j'ai le droit de ressentir ça. Et bon, j'ai le droit de l'assumer, j'ai le droit de l'exprimer. Et en même temps, en assumant, tu vois, ce truc de femme qui a envie de tout, puis en fait qui se pose pas trop de questions parce que ben faut bouffer la vie, on n'a pas le temps, quoi, tu vois.
Moi c'est un peu
ça. Moi je me sens un peu comme, tu sais, l'aventurière qui débroussaille la jungle au couteau à beurre. T'sais, j'ai pas les bons j'ai pas les bonnes armes, j'ai pas les bons trucs, mais on s'en fout, on y va. Tu vois, c'est un peu ce truc là. Et je te dis, je me sens comme ça parce qu'en fait je sais qu'il y a des milliers de femmes, pour pas dire des millions, qui ressentent exactement cette chose là on n'est pas les seules à penser comme ça, on n'est pas unique, on n'est pas exceptionnel, il y en a plein. C'est juste que je crois qu'on est vraiment sur une génération où on est en train de sortir de toutes ces injonctions de rester petite, n'en voulez pas trop, n'en demandez pas trop, restez à votre place, tenez votre rôle. On est justement vraiment beaucoup en train de sortir de tout ça. Donc ça va changer, je pense que ça va changer beaucoup de choses dans les générations à venir. Et moi, dans ma vie, c'est soulagement, liberté, authenticité, truc de fou, spontanéité. Et plus que tout, ça c'est l'insight des derniers mois surtout, je m'autorise enfin à poser des vraies limites avec les gens que j'étais pas capable de mettre avant. Parce que je me disais, c'est de ma faute s'ils me disent que je suis trop, que j'ai trop confiance en moi, que je prends trop de place, etc. C'est de ma faute. Donc c'est à moi de racheter ça. C'est à moi de me diminuer. C'est à moi de me minimiser. Cette envie de bouffer la vie, etc., où j'en demande trop, où j'en veux trop, c'est moi qui suis trop intense, j'ai un problème, il faut que je m'écrase. Et vu que j'étais honteuse, tu vois, tu as parlé de honte tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est le sentiment le plus cuisant qui existe. Vu que je me sentais honteuse de ce que je suis, ben, pour racheter un peu ce que je suis, je me disais, OK, ben, je laisse les autres, entre guillemets, me piétiner, ou je pose pas mes limites, ou je laisse les autres un peu me traiter comme ils veulent pour qu'ils ressentent pas que je suis trop intense. Ben non, c'est terminé.
Mais je trouve ça... Ben, en plus, je voulais qu'on en parle de ça, parce que rien que dans tes stories, tu vois, récemment, tu parlais en story, je sais plus, c'était quelqu'un qui t'avait dit... repose-toi, Chloé, quelque chose comme ça, tu vois. J'ai vu ta réponse et j'ai trouvé que tu avais super bien répondu. D'un côté, t'as reconnu que, bon, il y avait certainement de très bonnes intentions derrière, mais t'as réussi à mettre des limites. Et j'allais te parler de ça. Je trouve que tu dégages cette capacité à mettre des limites assez facilement, même si je sais que c'est jamais facile. Qu'est-ce qui t'a aidé à mieux mettre tes limites et à te libérer du sentiment de culpabilité qui peut aller avec ? Alors peut-être que tu le ressens toujours, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui t'a aidé là-dedans ? Parce que bah, moi, ça résonne tellement ce que tu dis et je suis sûre que ça résonne avec plein d'autres personnes, quoi.
Ouais. C'est vraiment marrant hein, que tu dis ça par rapport aux limites parce que tu n'es pas la première à me le dire. À dire, on dirait que toi, tu poses tes limites, que c'est facile. Comment dire ? C'est quand même le truc qui fait office d'un travail depuis des années, tu vois. Travail de l'ombre, travail thérapeutique, enfin, parce que ça reste quand même un gros sujet dans ma vie, tu vois. En fait, pour moi, il y a deux manières de faire. Il y a une chose, c'est que je crois qu'il faut prendre conscience de... alors, ça va faire super cliché ce que je vais dire là, mais il faut prendre conscience de la valeur qu'a notre énergie et notre temps. Quand tu as conscience... de la valeur de ton temps, de la valeur de ton énergie, et on ne parle pas du tout de business, de rien du tout, on parle en fait, t'es la vie, ça va vite quand même, tu vois.
C'est clair.
Et puis ton énergie, elle est hyper précieuse, ton énergie, t'en as besoin pour ton travail, t'en as besoin pour tes relations, t'en as besoin pour tes enfants, t'en as besoin pour ton sport, t'en as besoin pour tout. Quand tu prends conscience de la valeur de ça, tu ne laisses plus n'importe qui accéder à ton énergie. Tu ne laisses plus n'importe qui se servir dans ton énergie et tu ne laisses plus n'importe quoi dépenser, drainer ton énergie. Donc ça, c'est la première chose, moi, qui m'a aidée, c'est vraiment de comprendre ça, de ce truc de, en fait, attends, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me draine ? Et moi, en fait, je pose ça là comme une visualisation, mais je mets des espèces de couvercles. Il y a des personnes qui n'accéderont jamais à mon cœur d'énergie parce que je sens qu'en fait, ça va me drainer, je sens qu'il y a des intentions qui ne sont pas honnêtes, il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Donc, en fait... ça va rester cordial, mais vous n'atteindrez jamais mon énergie, c'est trop précieux pour que je me laisse drainer. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bon, je parlais des trous du cul tout à l'heure, ça aide vachement les trous du cul dans la vie, en fait.
c'est vrai.
Tu sais, j'ai un ami, François Lemay, qui dit c'est des anges déguisés en trous du cul, en fait, qui viennent t'enseigner des leçons de dingue.
C'est vrai.
Donc il y a ça, en fait, c'est toutes les fois où tu t'es senti malmené, où tu t'es senti pas respecté, il y a un truc que j'ai appris, c'est ça, c'est à partir de tous ces moments-là, il faut apprendre que tu as enseigné à un moment donné à quelqu'un comment te traiter. Alors attention, il faut prendre des pincettes, il ne faut pas la mettre dans n'importe quel contexte, cette phrase, parce qu'il y a des contextes dans lesquels ça ne va pas du tout. Mais par rapport à tous ces moments où on ne s'est pas posé nos limites, en fait, quand j'ai compris cette phrase-là, je me suis dit, ok, le problème, ce n'est pas que les gens dépassent mes limites, le problème, c'est que moi, je ne sais pas poser mes limites parce que je suis insécure par rapport à ça. Et j'ai eu une stratégie pendant 28 ans d'attendre que les gens comprennent mes limites. Tu vois, mais je suis sûre que tu as le même truc.
Oui, complètement.
C'est en mode, il va bien comprendre. Il va bien comprendre que non, là, ça ne va pas, ouais. Que je n'ai pas envie, que tu me saoules, que je n'ai pas envie de répondre, que tu m'écris trop, que si, que ça, que ce n'est pas OK. Sauf qu'en fait, tu peux attendre tant que tu veux. Tu as des gens qui ont une intelligence émotionnelle et une sensibilité de comprendre directement et du coup, de ne pas dépasser ça. Mais tu as plein de gens qui ne l'ont pas forcément, ou tu as des gens qui n'ont pas envie de le comprendre, ou tu as des gens qui ont envie de forcer, ou tu as des gens qui projettent, enfin voilà, forcément. Donc en fait, bon, bah, ta stratégie, elle ne marche pas, change de stratégie. Ouais. Donc ce qui m'a aidée, c'est ça, c'est de me dire, OK, je ne peux pas attendre que le réel change et que les gens changent, c'est à moi de changer. Donc si ma stratégie, elle ne marche pas depuis toutes ces années, ben, je change ma stratégie. Comment est-ce que je peux dire les choses clairement ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de culpabilité, c'est encore pas facile, surtout dans les relations dans lesquelles, tu vois, j'ai de l'affect avec les gens que j'aime. Forcément, c'est jamais facile de dire à quelqu'un, en fait, là, stop, c'est pas OK. Enfin, il y a des gens pour qui c'est facile, mais je pense qu'on est beaucoup de femmes pour qui ça l'est pas, tu vois.
C'est clair.
Donc, voilà, j'essaie de poser mes limites avec calme. Et il y a une chose vraiment qui a été un très fort déclic et qui fait le lien avec la story dont tu parles que j'ai mis l'autre fois, c'est en fait, personne n'est plus à même que moi de me dire ce que je vaux, ce dont j'ai besoin et qui je suis. Personne.
C'est vrai.
Et ça, c'est ma souveraineté. Mmh. Et quand tu touches à ta souveraineté, une fois que tu as touché à ta souveraineté, c'est-à-dire qui t'es, ce dont tu as besoin, tes limites et ce que tu vaux, personne ne peut y retoucher de nouveau. Parce que tu as touché à ce petit trésor, tu comprends la valeur du truc, tu comprends qu'il n'y a que toi qui es à même de gérer ça et de toucher ce truc. Et tous les gens qui veulent s'emparer de ça ou qui veulent juste y toucher, ou c'est comme la personne qui me disait « Non, mais au lieu de faire ça, tu devrais plutôt te reposer. » En fait, non, tu ne me diras pas ce dont j'ai besoin, ni qui je suis, ni mes limites, parce que tu n'es pas moi. Et quand tu comprends ce truc, ce principe de souveraineté, qui est en fait un principe hyper profond, tu laisses plus personne y toucher.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. Franchement, en fait, quand tu parles de ça, je m'imagine ce sentiment profond de détachement de ce que les autres te projettent et de ce que les autres pensent de toi. Et c'est un sentiment, franchement, je pense que c'est un travail, c'est le travail d'une vie, je pense, mais c'est un sentiment qui est hyper libérateur, finalement. Mais c'est vraiment, je pense, ce qui nous bloque le plus, c'est cette culpabilité et cette honte de j'ai pas le droit, tu vois. C'est comme si on attendait la permission de pouvoir être qui on est vraiment.
Exactement.
Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu as le sentiment de t'être libérée vraiment de ça?
Non, honnêtement, non.
Non?
Non, ça serait... Ça serait mentir de dire que je me suis complètement détachée de la culpabilité, des projections des gens, etc. Tu sais, encore une fois, il y a beaucoup d'injonctions, même dans l'univers un peu dev perso, ouais, spiritualité, que maintenant il faut devenir sage, qu'il ne faut plus du tout se soucier du regard des autres, etc. Moi, ce n'est pas du tout ma manière de voir les choses. Je pense qu'on se construit à travers le regard de l'autre. Donc, se détacher du regard de l'autre, je pense que c'est un peu une illusion. C'est personnel, c'est un avis personnel, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Je pense qu'on peut arriver à y donner moins d'importance, moins de poids, ça c'est sûr, mais s'en détacher complètement, je ne crois pas. Et il y a une part de moi qui n'a pas totalement envie de me détacher des projections des gens. Parce qu'en fait, tu vois, on en revient à cette envie de bouffer la vie. Moi, j'ai envie de me laisser toucher par la vie. Je n'ai pas envie de rester là comme un arbre tout droit, comme ça. Moi, j'ai envie d'être un bambou. Bon, ben, on pleure, on rigole, on chiale, on se marre, on jouit, on est triste, on est en colère. Moi, j'ai envie de me laisser vraiment toucher par la vie. Donc, j'ai envie de moins me laisser toucher par les projections des gens, etc. et de me détacher un petit peu. Mais si tu te détaches complètement des projections négatives des gens, tu te détaches forcément des projections positives des gens aussi, ouais, tu vois. C'est impossible, enfin, ça va ensemble. Donc, en fait, si tu veux moins te laisser toucher par les critiques, ben, apprends à te laisser moins toucher par les compliments. C'est ce que j'ai fait aussi. Sauf que bon, bah, moi, je sais, j'ai besoin aussi qu'on me flatte un peu mon ego. Voilà, je suis un peu égocentrique, j'ai besoin, voilà, ça fait du bien. C'est aussi, de temps en temps, ça donne un petit coup de boost. Voilà. Donc, pour me laisser toucher par ça, ben, je me laisse aussi toucher par l'opposé. Et puis, d'un autre côté, se laisser toucher aussi par tout ce qui est projection des gens, ça permet en fait de constamment checker sa posture et revenir en fait dans une posture de OK. Je ne suis pas un être exceptionnel, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas au-dessus de tout le monde. Tu sais, ça te ramène les pieds sur terre,
c'est
tu vois.
C'est trop vrai ce que tu dis.
Donc,
c'est, trop vrai.
C'est pas plus mal, tu vois.
C'est
donc,
vrai.
Voilà, les projections des gens, c'est juste se rendre compte que ce sont des projections. Et les endroits sur lesquels ça vient nous faire chier, c'est des endroits à mettre en lumière chez nous qu'il faut qu'on travaille un peu, sur lesquels voilà, il faut qu'on prenne en confiance, ou alors sur lesquels peut-être qu'il faut qu'on se remette en question. Tu vois, c'est un petit peu toutes ces choses-là. Donc finalement, c'est avec plus de flexibilité, voilà, c'est avancer un petit peu avec. Par contre, cette notion de culpabilité dont tu parles et de honte, je ne pense pas m'en être complètement libérée. Je pense que ce que j'ai lâché, et ça fait, en fait, ça fait juste un an et demi que c'est un très, très gros morceau que j'ai lâché dans ma vie, c'est j'ai lâché le fait de devoir être la personne qui rassure et valorise tout le temps.
Okay,
et qu'en fait, je ne veux plus prendre les insécurités des autres à ma charge. Si tu veux, c'est une stratégie. Alors, c'est personnel, c'est pas tout le monde ne fait ça, mais je pense qu'il y a pas mal de femmes qui le font. Je prenais les insécurités des autres sur mes épaules. Donc, si je vois quelqu'un qui est insécure, je sauve. Mais tu sais, on sait toutes les deux que quand tu sauves de force, ben, y a forcément un moment donné où tu fais aussi du mal, tu es un peu bourreau pied, un peu victime, tu vois. Donc si tu veux, je prenais tout de suite les insécurités des autres à ma charge. Donc si je vois quelqu'un qui est insécure par rapport à moi ou par rapport à ce qui se passe dans la pièce, tout de suite je vais adopter la posture qui permet de rassurer. Même si ça me touche moi et ce qui vise à me taire, me diminuer, pas parler de moi, tu vois, voilà. Et en fait, jusqu'à ce que je comprenne, et ça a pris quand même du temps, de me dire, mais en fait, attends, ça ne me regarde pas. Pourquoi je prends ça à ma charge? C'est un poids qui ne m'appartient pas. Ouais. Chacun ses insécurités. J'ai déjà bien assez avec les miennes, putain, voilà. Donc, on bosse chacun sur ses trucs. Et en fait, ce n'est pas non plus de notre faute si les gens ne peuvent pas se responsabiliser de leurs propres émotions, de leurs propres insécurités et de leurs propres projections. Et ça, je ne peux pas changer le monde. La seule chose que je peux faire, c'est planter des graines pour que, putain, un jour, ça rentre dans la tête de toute l'humanité. Mmh. Allez, venez, on reprend nos projections, on reprend... C'est la même chose que tu fais, au final.
Ouais, ouais, c'est
vrai. Est-ce qu'on peut être un peu plus conscient de nous-mêmes? Mmh. Et surtout, comme je dis souvent, est-ce qu'on peut être un peu mieux dans notre peau parce que ça nous rend moins cons?
C'est vrai, c'est trop vrai ce que tu dis. Mais c'est vrai que je me retrouve trop dans ce que tu dis parce que moi, j'ai vraiment le même réflexe de vraiment prendre le truc à cœur et de m'effacer pour permettre à l'autre d'éviter de se sentir insécure. D'ailleurs, finalement, ça marche pas vraiment. Dans les faits, ça marche pas vraiment.
Non, mais non.
Et ça aide pas vraiment l'autre mais aussi non. à se responsabiliser parce que tu prends sa charge émotionnelle sur toi et tu l'habitues aussi parfois à dépendre de toi.
Exactement.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et je suis curieuse qu'on discute du coup de l'énergie féminine et masculine. T'en parles pas mal en ce moment et je trouve ça hyper intéressant. Je crois que dans une interview récente que j'ai regardée de toi avec Osé Bainico, un truc comme
ouais,
ça, je crois
ouais.
que tu parlais de, ouais. du fait que tu t'étais coupée de ton énergie féminine à un moment donné et que tu l'as retrouvée. Qu'est-ce qui t'a amenée à t'en couper à la base?
Ouais, c'est une vraie question. Alors, plutôt que de parler d'énergie féminine, tu vois, j'essaye de... Parce que tu as l'énergie féminine que finalement je préfère appeler l'énergie yin parce que ça se situe vraiment encore une ouais. fois chez tout le monde et que c'est les principes yin et yang du Tao qui sont quand même assez connus. Donc le yin, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas ici, le yin c'est vraiment l'énergie de calme, de repos, mais aussi de dans l'ombre. Donc c'est le retrait, l'immobilité, le repos, la lenteur, etc. Et le yang, c'est au contraire tout ce qui va être en lumière, le mouvement, la rapidité, l'action et la visibilité. Et en fait, on a tous voilà, du yin et du yang. Moi, ce dont je me suis coupée, c'est pas... Alors, déjà, c'est de mon yin, ça, c'est une évidence, mais parce qu'on est dans une société qui est extrêmement yang et qui valorise extrêmement le yang, efficacité, productivité, action, rapidité, pas de repos, enfin, tu vois, voilà. Donc, on est tous déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre yang. Pour vivre dans le monde dans lequel on est, c'est normal. Donc, déjà, je pense qu'on est tous... On peut tous avoir du mal aussi à connecter avec notre yin. Mais en plus de ça, moi, ce dont je me suis coupée, c'est même de mon féminin, entre guillemets.
Okay.
Donc, c'est de tout ce qui composait le fait que je pouvais être une femme. Je ne parle pas physiquement, je parle dans mes ressentis. Donc, même la notion de vulnérabilité, la notion de sensualité, etc. Même si toutes ces choses, on les retrouve aussi chez des hommes, c'est pas vraiment ça le truc. C'est plutôt, je me suis coupée de tous mes besoins de femme, mes désirs de femme, mes ressentis aussi, même féminins. Parce que j'en avais profondément honte.
Mmh.
Et si tu veux, pendant des années, moi, je me suis dit, je ne serai jamais une femme féminine, ce qui est complètement de la connerie, enfin, ça ne veut rien dire en plus, tu vois. Je ne serai jamais une femme féminine parce que de tout ce qu'on m'a dit, c'est que je ne colle pas à la féminité, parce que je ne suis pas sensuelle, parce que je ne suis pas douce, parce que je ne suis pas belle. J'ai toujours entendu avec mes partenaires, avant mon partenaire actuel, que de toute façon, que j'étais dégueu, que j'étais pas belle, que j'étais pas sensuelle, que jamais un homme ne voudra me regarder, que jamais un homme ne voudra me toucher, que heureusement que j'avais mon intellect pour moi. Donc j'ai beaucoup entendu ces choses-là, et depuis très jeune, tu vois, ma première relation amoureuse a commencé comme ça, ça a été... d'une violence absolument inouïe. Et quand tu souffres et que voilà, tu as tous ces trucs tu vois, qui te bouffent, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, moi, j'ai compris, en fait, je ne serai jamais capable d'être une femme. C'est une aberration de penser comme ça. S'il y a des femmes qui pensent ça, qui nous regardent, c'est une aberration. Tu es une femme parce que tu n'es une femme, point. Enfin, tu vois, c'est pas plus loin que ça. Mais en gros, je me disais, je ne serai jamais une femme. Je ne serai jamais une femme aussi... féminine ou aussi sensuelle ou aussi jolie ou aussi intelligente ou aussi intéressante ou attirante que les autres. La seule chose que j'ai pour moi, c'est ma combativité, mon intellect. Donc, puisque je n'ai que ces atouts-là, je vais tout miser là-dessus. Et donc, tout le reste, c'est dangereux.
Mmh.
Et vu que j'ai subi Alors, j'ai subi des agressions, mais au-delà de ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai retenu des leçons par rapport à ce que j'ai vécu de, en fait, être dans sa vulnérabilité... assumer son corps, ou même, tu vois, être dans de la vulnérabilité, dans de la douceur, parler de ses sentiments, avoir des désirs sexuels, etc., c'est dangereux, parce que de toute façon, on va venir t'agresser là-dessus, c'est honteux, Il y a beaucoup de femmes qui ressentent ça parce que je pense qu'on est beaucoup de femmes à avoir subi aussi des agressions et à un moment donné, agressions, harcèlement, etc. Ben, tu sais, quand c'est à répétition, et il y a plein de femmes tu vois, qui nous regardent qui ont ce truc, c'est en fait quand c'est à répétition, tu finis par installer des croyances. On a toutes des croyances différentes, mais moi, mes croyances, c'était être une femme, c'est dangereux, être dans ma féminité, c'est dangereux, c'est mal, c'est sale et c'est honteux. Mm-mm. Moi, c'était beaucoup ce truc de c'est sale.
Ouais.
Donc en fait, eh ben ça, au revoir. Moi, je vais être l'inverse. Donc ça a été, ok, ben, tu sais quoi ? Oublier le fait que je sois une femme. Moi, je suis une warrior. Moi, je suis en mode go muscu. Moi, la féminité, de toute façon, c'est pas mon truc parce que c'est pour les faibles. Les femmes sensuelles, c'est des femmes qui n'ont rien dans le ciboulot. Ça a été vraiment tous ces trucs-là, tu vois. Mmh. Et ça, je m'en suis coupée pendant très longtemps jusqu'à ce que, ben, en fait, non, à un moment donné, ça ressort parce qu'en fait, non, je suis une femme et qu'il y a tout ce qui se situe à l'intérieur de moi qui ressortira à un moment donné.
Ça me parle trop ce que tu dis. Ça me parle trop. Et tu sais quoi, vraiment c'est intéressant parce que je pense que je m'étais pas trop posé la question jusqu'à ce que je tombe sur des posts, des contenus que tu avais postés par rapport à ça. Je m'étais posé quelques questions, mais j'avais pas trop creusé ce sujet-là parce que je pense que pendant ça fait un moment que je suis un peu dans mon énergie yang. Et c'est bizarre parce qu'il y a plein de gens qui me disent que je suis féminine, mais moi j'ai toujours ce truc de « Ah bon, tu trouves ?» C'est bizarre parce que je le ressens pas forcément, tu vois. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de femmes ressentent ce que tu décris de cette honte, de cette peur de montrer ces parts-là de nous et cette association entre « si je suis vulnérable, douce, sensible, bah, y a un danger ».
Ouais.
C'est un peu de la fragilité, il y a un danger, je vais me faire attaquer, entre guillemets.
C'est ça.
Et aussi, on va me prendre un peu moins au sérieux, je trouve, il y a un peu ce truc-là.
Ouais. Malheureusement, mais exactement. En fait, mais tu vois, ça me met en colère. J'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo, et il y a d'autres gens qui en parlent très bien. T'as Mona Chollet, qui est une auteure aussi féministe, qui en parle très bien. Franck Lobvet en parle également très bien. En fait, il y a toujours cette espèce de croyance dans l'inconscient collectif depuis des siècles qu'une femme, elle n'a pas le droit de tout avoir. Donc, il faut qu'elle choisisse entre son intellect ou sa beauté. Et qu'une femme qui est belle ou qui met son physique en valeur ou qui est dans sa superficialité est forcément conne. Ou qu'elle n'a rien dans le ciboulot ou que de toute façon, c'est son seul atout. Et sinon, bah, quand tu es intelligente ou, je sais pas, juste en fait, quand tu veux être prise au sérieux, enfin juste ça en fait, quand tu veux juste être prise au sérieux, il faut supprimer toute l'autre part.
Mais c'est exactement ça.
Et pourquoi ?
Mais
pourquoi ?
C'est exactement ça, en fait. C'est complètement ça.
Mais
et
non.
Je te jure
mais
que
on
c'est.
On n'est pas d'accord.
Mais c'est vrai. Mais non, non, mais je suis pas d'accord avec ça. C'est vraiment c'est trop vrai parce que, franchement, si je suis 100% honnête, moi, je me suis beaucoup. Et j'en parlais avec ma sœur, et ma sœur, elle me challengeait beaucoup sur ça. Parce que. À chaque fois que, tu vois, je postais une story ou un truc un tout petit peu, mais un tout petit peu sexy, tu vois. Vraiment, quand je dis sexy, c'est peut-être un tout petit peu décolleté ou un tout petit peu comme ça. Je me disais, mais...
Donc un tout petit peu normal, moi j'appelle ça
Oui,
normal,
mais c'est normal, fait. C'est normal. Mais je veux dire, moi, dans ma tête, je me disais, mais les gens vont se dire que... Ils vont faire des associations et ils vont me réduire à mon physique. Mm-hmm. Je vais être qu'un physique.
Ouais.
Et dis-toi que... Même en faisant super attention à ça, j'ai quand même des gens qui m'envoient parfois des messages en me disant « Ah, mais toi, bon, c'est parce que t'es mignonne aussi, c'est plus facile. C'est plus facile parce que t'es mignonne. » Et ça, c'est des trucs qui me rendent dingue.
Mais
parce que...
ça les arrange de croire ça, Mariam.
Ouais, je sais.
Sinon,
ouais.
Si ils se rendent compte que c'est pas vrai, ils ont trop les boules.
Ouais, c'est vrai.
T'imagines ?
Ouais, c'est vrai.
T'es jolie, t'es belle, t'es inspirante, t'es intelligente, t'es douce, t'es charismatique, ça fait chier tout le monde. Mais
c'est vrai.
Ça fait chier tout le monde.
Non, c'est vrai.
Donc,
tu peux pas...
cette pensée un peu binaire, ce qui est la base de la pensée sexiste, hein, et que du coup, il faut se rendre compte qu'il y a des femmes et des hommes qui sont sexistes, il y a les deux, c'est la base de la pensée sexiste. Et moi-même, j'ai pensé comme ça. Quand je voyais une nana jouer beaucoup de son physique, je me disais, d'accord, elle doit être conne. Mais pourquoi ? Pourquoi l'un exclut l'autre ? Non, l'un n'exclut pas l'autre. On peut être les deux. Le problème, c'est inenvisageable. Parce que si une femme est intelligente, c'est pas logique qu'elle se serve de son physique. Ou si une femme se sert de son physique, c'est pas logique qu'elle soit intelligente. Ben non, en fait, on peut être les deux. Si tu savais, Mariam, le nombre de fois où j'ai reçu des messages de « c'est dommage, ton image dessert ton message ».
Mais tu vois, ça me met hors de moi, ce genre de message. Mais Mais putain, ok,
maintenant, ça fait rire. Non, mais maintenant ça fait rire. En fait, tu te rends compte, c'est que c'est tellement disruptif qu'en fait les gens, pour eux, ça connecte pas. Bon bah c'est pas grave. Mais du coup, c'est un super bon signe. C'est en fait, ben non, je suis la preuve qu'on peut aussi faire les deux. Et venez, on crée une nouvelle façon d'être une femme en fait, qui est en fait juste, on assume tout, on s'excuse pas, on peut tout avoir, on peut avoir envie de tout ou avoir envie de rien. En fait, il y a pas de règles. Et c'est juste réinventer sa façon d'être au monde. C'est réinventer sa façon d'apparaître. Ils disent ce qu'ils veulent, en fait. Enfin, l'image dessert le message. Non, ça, c'est parce que toi, tu es encore dans cette pensée binaire, sexiste. On va en sortir un jour, j'en suis sûre. C'est pas grave, tu vois.
Ouais.
Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça rend dingue. Et en même temps, c'est des projections. Et en même temps, t'imagines, ça fait des millénaires qu'on est éduqués comme ça.
Donc, c'est vrai.
Tu sais, c'est pas avec un réel qu'on va changer les choses, tu vois. Mais oui, c'est aberrant. Et franchement, pour te dire même entre nous...
Ouais.
Si tu savais les grandes têtes dans le dev perso et dans la philo, qui, moi, le jour où je les ai contactées pour des interviews, etc., qui m'ont dit, mais en fait, attends, toi, tu fais quoi par montrer ton cul sur tes réseaux sociaux ?
Ils t'ont dit ça ?
Ouais.
Oui. Ah ouais. Oui.
Ben, en fait, c'est pas grave. J'ai pas été prise au sérieux. J'ai pas été prise au sérieux pendant longtemps. Et ben, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Si mon physique fait que je ne suis pas prise au sérieux, ou si le fait que je sois un peu narcissique, un peu égocentrique, que je joue le jeu des réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'on fait avec les réseaux sociaux, on se montre tout le temps, dessert le message, c'est que je ne suis pas faite pour tout le monde, et c'est pas grave. Je ne veux pas être faite pour les gens qui ont une pensée binaire. Je veux être faite pour les gens qui veulent plus. C'est pas grave.
Ouais, ce que tu dis là, c'est hyper important. C'est finalement se reconnecter à qui est-ce que tu as envie de te connecter. Et je trouve que ça te permet de pas mal te détacher de cette peur. Mais qu'est-ce qui t'a, toi, aidé à t'autoriser à te réconcilier à cette part de toi et à l'exprimer parce que, tu vois, on est sur les réseaux sociaux, donc forcément, qu'est-ce qui t'a aidé à ce niveau-là ?
Un gros boulot sur pas mal d'aspects. Parce que en gros, pour faire le résumé, en gros, moi j'ai commencé beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Donc à mettre vachement en valeur, etc. Et puis quand j'ai commencé dans le dev perso et que j'ai pris toutes ces remarques, la première chose que j'ai faite, c'est de me dire ah bon bah attends, il faut que je prouve que je suis intelligente.
Ouais.
Donc j'essayais constamment de compenser le fait que je me mette en photo et que je mette les robes que j'ai envie de mettre en fait, en essayant de prouver à quel point j'étais authentique, à quel point j'étais intelligente, que j'étais profonde, etc. En fait, on ne sort pas du schmilblick. On fait les deux, mais on est bouffé par les deux, en fait. Tu vois, donc l'histoire n'est toujours pas résolue. Ça a été un gros travail de l'ombre d'aller voir, en fait, pourquoi est-ce que j'essayais tout le temps de racheter cette part de moi et comment est-ce qu'en fait, je peux être les deux sans avoir à m'en excuser. Parce que j'étais les deux, mais je m'en excusais tout le temps, si tu veux.
C'est ça.
Quand t'es les deux, puis que tu dis, non, mais je suis profonde, hein, je suis intelligente, hein, mais quand même. Hein.
Mais c'est
qu'en fait, t'es encore en lutte à l'intérieur, mais ça veut dire que t'es encore en lutte. Donc moi, je suis allée travailler sur la lutte, sur en fait, attends. Je suis les deux, je n'ai pas à culpabiliser d'être les deux. Donc c'est passé par beaucoup de travail de l'ombre, d'aller voir en fait toutes les parts de moi dont j'avais honte, les blessures, les peurs, les récupérer, assumer aussi la femme en fait qui est, je vais dire, égocentrique en moi, la femme qui a aussi envie d'être exceptionnelle, d'aller voir la femme qui est autoritaire, d'aller voir la femme qui se sent faible. J'ai eu vraiment besoin d'aller faire ce gros travail de l'ombre, là, de me réapproprier en fait des parts que tu vois j'avais un peu oubliées. Je suis allée voir des chamans, je suis allée faire des stages chez Franck Lopvet, j'ai travaillé sur ma superficialité, parce que pareil, tu vois, quand je trouve aujourd'hui, en tout cas c'est plus un sujet, je trouve que j'essaye d'être de manière assez authentique, tu vois, sur mes réseaux, je me prends pas la tête, j'essaie pas à tout prix d'être authentique, mais je trouve que je suis plutôt alignée à mon authenticité pour le coup, sauf qu'avant, j'essayais à tout prix d'être authentique, au point que je voulais rejeter un peu ma superficialité, tu vois, en mode... faut pas trop que je me maquille parce que sinon il va y avoir c'est pas authentique, faut pas trop que je sois comme ça, faut pas trop que je sois comme ça, faut machin, tu vois. Bah, c'est complètement con de faire ça. Tu restes dans ce truc de, en fait, t'es en lutte tout le temps à l'intérieur. Donc c'est aller voir les luttes. Je dis, Franck Lopvet m'a pas mal aidé aussi là-dessus. Les ouvrages de Fabrice Midal, je sais pas si tu vois.
Je l'adore, il est génial.
Ouais. Tu vois, il en parle super bien. Frédéric Lenoir, c'est passé par des discussions. C'est passé même par des discussions que j'ai eues avec des femmes un peu partout autour du monde, de cultures même différentes, même des Mexicaines. Enfin, C'est plein de discussions comme ça, l'adversité encore une fois aussi, et vraiment ce truc de récupérer ma souveraineté et de comprendre une bonne fois pour toutes que je ne rentrerai pas dans les petites boîtes dans lesquelles on veut me mettre. Je ne rentrerai pas dedans, j'arrête de vouloir bourrer le triangle dans le carré, je suis plus que tout ça, et il va falloir que j'accepte d'être plus que tout ça. Donc c'est vraiment, comment je peux être dans toutes mes couleurs, tu sais, c'est, j'ai tout un éventail, ok, j'ai passé déjà le début de ma vie à jouer ça, bon ben moi je veux jouer ça, puis je veux finir avec jouer ça, tu vois, en fait, c'est vraiment ce truc-là. Donc ça a été vraiment ça pour moi, le truc qui m'a aidé de comprendre en fait que j'ai pas à choisir entre toutes ces facettes de moi, et surtout que je peux toutes les jouer en fait.
Ouais, c'est ça qui est challengeant, je pense. C'est, moi, je sais que je suis pas mal challengée sur ça en ce moment. Mais je trouve ça hyper inspirant de voir que tu as avancé sur ce chemin. Tu es toujours sur ce chemin-là. Mais tu vois, il y a quand même... Et c'est vrai ce que tu dis. Moi, c'est pour ça que je t'ai dit au début. Je trouve que tu dégages beaucoup d'authenticité. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu as dit sur... parfois, on a une image de ce que c'est qu'être authentique. Ah bah pour être authentique, il faut cocher telle case, faut pas se maquiller, ouais. Ouais, c'est ça,
c'est ça. Ouais. C'est pas plus authentique en fait, ouais. C'est pas plus authentique en fait de montrer à tout prix, de valoriser des défauts et des trucs rassurants, c'est pas plus authentique que de se montrer maquillée ou superficielle en fait, enfin, ça, ouais. Ça allait pas plus. J'ai juste une question pour
Dis-moi.
Toi, tu dis je suis pas mal challengée là-dessus en ce moment,
ouais.
C'est quoi?
Moi ce qui me challenge honnêtement, c'est... d'assumer d'autres parts de moi que je que j'ose pas montrer, comme mon côté ambitieuse, le fait que bah par exemple j'adore le business, l'argent c'est quelque chose de super important pour moi, je le montre, j'en parle pas parce que j'ai peur qu'on me juge là-dessus et j'ai peur qu'on se dise ah mais en fait Mariam je suis déçue, elle est pas bienveillante, elle est pas ça, elle est pas ci. Et du coup, j'ose pas montrer ces parts-là de moi alors que bah, elles font partie de moi, tu vois. Ou ma féminité aussi, j'ai un gros travail à faire là-dessus, je le sais. Mais ouais, en fait, tu vois, j'ai beaucoup eu ce conflit intérieur de... Je vois ces différentes parts de moi. Je vois que je me considère quand même très spirituelle. En même temps, j'adore le business, j'adore l'argent. Tous ces des sujets qui m'intéressent énormément. Je suis très ambitieuse. En même temps, j'ai un côté très, très douce et en même temps, j'ai un côté très dur. Il y a tellement de choses que, déjà en moi, j'essaye de réconcilier et d'accepter. Mais à l'extérieur, j'ai l'impression que ce serait inconcevable pour les gens de comprendre ou de se dire « Ah, elle est spirituelle, elle est douce, mais en même temps, elle est dure et elle a ce côté. » Tu vois ce que je veux dire ?
Je vois tout à fait.
Et en fait, j'ai vraiment... J'ai peur de montrer ces parts de moi et en même temps, j'ai ce truc en moi en ce moment qui me dit oh, « j'en ai marre, faut que ça sorte en fait, tu vois, faut que ce soit... » Donc c'est pour ça que, ouais.
Je comprends carrément.
C'est vrai ?
Bah ouais, parce que franchement, tout ce que tu dis, ça résonne aussi parce que l'argent, j'ai rencontré la même chose. Quand t'es dans un peu le développement personnel, spiritualité, faut jamais parler d'argent.
C'est ça, ouais.
Faut pas avoir envie de matérialité. Enfin, y a tout ça, bon, féminité, même chose, business, même chose, enfin... Voilà. Franchement, t'as tout dit. C'est en fait, comment est-ce que déjà nous, on peut réconcilier les choses à l'intérieur de nous et être en paix avec nous. Et après, parce qu'en fait, encore une fois, on n'est même pas obligé de tout exposer. Tu vois, moi, il y a des choses que je suis, quand on a foutu sur les réseaux, j'en parle pas. Mais tu vois, quand on arrive au point où c'est non, mais là, faut que ça sorte parce qu'en fait, je sens que je suis dans 2 mètres carrés. Alors
exactement.
Que j'ai envie d'être dans 1000 mètres carrés. Tu vois,
c'est fou, mais c'est une trop bonne image. C'est ce sentiment à l'intérieur de toi.
Mais ça va sortir, Mariam. Si tu ressens déjà ça, je te jure que ça va sortir.
Ouais, je pense.
Et en fait, tu vois, je crois, je peux pas parler pour toi, mais je crois que ce qui fait qu'on reste dans nos 2 mètres carrés alors qu'on étouffe, on est comme des espèces de lionnes en cage, c'est parce que le monde entier nous dit que ce n'est pas cohérent ce qu'on est.
Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Mais la cohérence, c'est une norme instaurée par une majorité.
Ouais.
Ça ne veut pas dire que c'est vrai.
C'est vrai.
Il n'y a pas de norme. C'est pour ça que j'essaie vraiment de remettre ce truc, c'est comment est-ce que je peux réinventer ma manière d'être une femme qui apparaît au monde. C'est, je réinvente ma manière d'apparaître parce qu'on va me dire que ce n'est pas cohérent. On va me dire que je suis méga incohérente. Moi, c'est le truc qu'on me dit tout le temps. Mais même dans mes relations perso parfois et tout, mais sur les réseaux, c'est le truc qui ressort le plus. C'est elle est totalement incohérente, elle est super paradoxale. Mais je suis paradoxale parce que je suis entière.
Parce que t'es humaine.
Ben oui, c'est le principe en fait. Un peu. Non, peu le principe, tu vois. C'est un peu le principe. On parle pas, tu vois, d'incongruence ou faites ce que je dis parce que je fais ou mes actes sont pas alignés avec mes paroles. On parle pas de ça, tu vois. On parle de, c'est pas logique qu'elle soit ça puisqu'elle est déjà ça. Bah,
c'est exactement ça.
Pourquoi vous choisissez ça ou ça? On est les deux.
Mais c'est trop ça.
Donc ben.
Je suis. En fait, je trouve que c'est trop bien qu'on en parle parce que vraiment, c'est. Je pense que c'est un de mes plus gros challenges et je suis sûre que les gens qui nous écoutent aussi ont certainement cet enjeu-là.
Alors juste, ouais, du coup, parce que c'est important pour moi de réattribuer à César ce qui est à César, c'est que ça, actuellement, je ne suis pas du tout la personne la mieux placée pour en parler de notre époque, parce que Jung, c'est la meilleure personne qui en parlait très très bien à l'époque de notre dualité, etc. De notre époque, Frank Lovett va voir ce qu'il fait, et aller voir ce qu'il fait, parce que lui, il parle vraiment de ça, au lieu du « où », comment je peux passer au « et ». Et lui, il en parle très bien là-dessus. Tout son travail est vraiment là-dessus. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée aussi à justement tout embrasser.
Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidée de comprendre qu'on peut avoir des traits qui ont l'air complètement opposés. Franck Lovett, ça a l'air super intéressant ce qu'il fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris du docteur John DeMartini. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mais il en parle beaucoup aussi du fait qu'on a... On a tous des traits qui semblent opposés, tu vois. Tu vois, tu parlais du narcissisme ou de l'égocentrisme. C'est intéressant parce que je crois que tu as eu des réactions par rapport à ça, où les gens t'ont dit... alors que j'ai trouvé ça tellement courageux, le fait que tu le dises, parce que c'est réel. On a tous des côtés de nous qui sont... On a tous un côté narcissique, égocentrique, etc. Mais on ne veut pas l'accepter. Et ce qui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça montre qu'on a... beaucoup d'ego de pas vouloir accepter qu'on...
complètement.
Donc tu vois c'est
non, mais complètement. En fait, c'est l'être humain veut être blanc comme neige, pur licorne, miel, ours en gelée, veut être une bonne personne bien pure, encore plus dans l'univers spirituel et dev perso. Alors que bon bah moi j'ai juste dit oui que je suis égocentrique et je pense que les gens qui croient qu'ils ne sont pas égocentriques pour un sou se mentent à eux-mêmes. Moi ça j'en suis convaincue. Mais ben parce que je reconnais juste un truc qui est vrai chez moi, je me fais défoncer. Ben c'est pas grave. C'est un non-sujet pour moi. C'est un sujet pour vous.
Mais alors, je suis super curieuse de savoir, quand tu partages des choses comme ça et que tu accueilles ça de cette manière et que tu l'exprimes et que tu te reçois ce genre de commentaires, comment tu le vis? Parce que justement, je pense que c'est ça qui nous empêche aussi, en partie, d'exprimer ce genre de choses publiquement. Parce qu'on a, moi, en tout cas, je sais que parfois, quand j'y pense, je me dis « Ah, mais si j'exprime ce truc-là, je vais me prendre tous ces messages, tous ces commentaires, tous ces trucs de « Ah, je suis choquée, je suis déçue. » Et c'est ça qui me fait peur, je pense.
Ok.
Tu vois ?
C'est intéressant. C'est super intéressant. Moi, j'ai plus peur du tout de ça.
Ok.
Parce que en fait, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un non-sujet pour moi. Mmh. Dans le sens où, oui, bah, c'est ça, c'est qui je suis. C'est un non-sujet. Je veux dire, mais c'est un non-sujet dans le sens où c'est même pas un sujet à discussion. C'est ce que je suis, point. Si ça vous fait chier, c'est que c'est un sujet pour vous, c'est que c'est un sujet chez vous, c'est que ça vient chercher des trucs chez vous, etc. Donc quand je reçois beaucoup de critiques, tu vois, si par exemple, parce qu'il y a une autre vidéo où j'explique, où je dis, moi je suis dure, je suis autoritaire.
Ouais.
C'est la vérité. Ouais. Je suis dure, je suis autoritaire, je suis souvent agacée, je suis souvent en colère. Tout ça, c'est des choses qui sont vraies. Ce qui est vrai aussi, c'est que je suis quelqu'un qui est extrêmement douce, extrêmement vulnérable, dans ma féminité aussi, qui parfois a peur de blesser, qui essaie toujours de marcher sur des œufs, etc. Bon. Là, tu auras tous les gens qui vont dire « Ok, c'est pas du tout cohérent, n'importe quoi, la meuf, elle se perd, elle sait pas qui elle est. » Bon, eux, ils ont pas compris, c'est pas grave. Et ensuite, t'as tous les gens qui disent « Ouais, elle est autoritaire, elle doit être insupportable, ça doit vraiment pas être agréable, etc. » Pareil, c'est des gens qui n'ont pas tout à fait compris et qui n'ont pas encore accepté que c'est aussi des choses qui se situent peut-être chez eux ou tout simplement qu'en fait, c'est ce qu'on est et qu'en fait, à un moment donné, faut parler vrai, comme j'aime bien dire, c'est en fait, faut juste... dire les choses telles qu'elles sont, en fait. On n'a pas besoin de tortiller, on n'a pas besoin de faire des ronds de jambes et des pattes bourrées pour dire, bah voilà, moi, c'est ce que je suis, point, et c'est tout. On s'aime comme ça, en fait, c'est tout, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser libre cours à nos parts pas très glorieuses, laisser libre cours à notre colère, devenir violent, être désagréable avec les autres, c'est pas du tout ce que je dis. Mais juste déjà reconnaître qu'on est quelque chose, c'est déjà un pas vers un peu plus de paix et un peu plus de sincérité. Et un peu plus d'honnêteté. Vrai. Mais honnêtement, moi, Mariam, dans mon expérience, ce que j'ai compris, c'est que pour une majorité des gens, c'est très difficile d'être sincère à propos d'eux-mêmes. Parce que c'est trop douloureux, parce qu'en effet, on a peur des projections, de ce que les autres vont dire sur nous, etc. Moi, aujourd'hui, quand je reçois des critiques comme ça sur des posts, je ressens pas de peur. Je ressens une petite pointe d'agacement, mais surtout beaucoup de lassitude. Beaucoup, beaucoup de lassitude, parce qu'en fait, ça me... Tu vois, même là, c'est presque de la déception. Mmh. En mode, il y a encore tous ces gens qui n'ont pas compris ce que j'essaie de faire passer depuis le début. C'est juste ça. Et puis ça passe. Et après, je me dis, ok, bon, bah, il faut que j'en donne encore plus, il faut que je plante encore plus de graines. Ça va faire office d'un podcast, ça va faire office de post, etc., etc. Et c'est pas grave, ça va donner de l'eau à mon moulin. Voilà, donc j'essaie juste de me dire ça. Parce qu'en réalité, tu vois, quelqu'un qui est bien dans sa peau, il ne vient pas te faire chier.
Ah, c'est clair, c'est clair.
Quelqu'un qui reconnaît que lui aussi, par exemple, je ne sais pas si je peux parler de, du fait que je suis... Il y a plein de défauts, j'ai plein de défauts. Je suis hautaine, un des trucs... Je suis intolérante. Voilà, ça, c'est un truc, je le sais, je suis vraiment intolérante. Et je suis aussi très tolérante sur d'autres trucs, mais je suis intolérante. Ça, quand je l'explique, t'as plein de gens qui vont dire que c'est mal d'être comme ça, qu'il faut pas. Ça, c'est des gens qui sont persuadés, eux, d'être blancs comme neige, d'être ultra tolérants, etc. Et tant que t'es persuadé d'être blanc comme neige, en fait, tu ne peux pas voir ce qui se passe vraiment chez toi.
Ouais, mais c'est surtout que si tu juges quelqu'un qui est intolérant, du coup, toi-même, t'es intolérant des gens intolérants, quoi. Voilà, en fait, c'est un peu ça, quoi.
Voilà, donc, si tu veux, tu comprends la lassitude, c'est flemme.
Ah, je comprends très bien ce que tu veux dire, ouais.
Flemme. Et je crois que c'est mieux, tu vas te tomber, enfin, chez moi en tout cas, après, il faut voir comment ça tombe chez chacun, mais je crois que c'est mieux, tu vois, d'être en mode, bon, tu vois, plutôt que, ouais, ça me saoule et ça me fait chier, et c'est pas vrai, et j'ai peur, parce qu'en fait, maintenant, ça m'arrête plus. Mes insécurités, elles m'arrêtent plus.
Ça, c'est top.
J'en ai, mais ça m'arrête plus, tu vois.
Ouais.
Mais je comprends. On a encore du taf.
Ah bah oui, non, mais c'est clair, mais je trouve ça trop important, justement, d'oser exprimer ces choses-là, parce que je pense que ça donne vraiment la permission à d'autres personnes de se questionner et de se dire « Ah ben en fait, c'est ce jugement polarisé de « ça c'est bien, ça c'est mal ben, », je ne suis peut-être pas obligée de l'intégrer et je peux m'en libérer peut-être,
ouais,
tu vois.
Exactement.
Parce que je pense que vraiment, c'est une telle source de souffrance de se juger soi-même et de juger les autres et de se dire « Ah ça c'est bien, ça c'est mal », le fait que cette personne, elle soit hautaine à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment aidée de faire le travail avec Docteur De Martini parce que, tu vois, il nous posait la question « Quelles sont 10 situations où vous avez été hautain ou vous avez été arrogant ?» Et du coup, ton cerveau, il te dit « Ah non, 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 moi, je ne suis pas arrogant. J'ai jamais été arrogant. » Et en fait, tu es obligé d'aller creuser et tu vois « Ah oui, là, avec ma sœur ou là, avec... » Et tu te rends compte qu'en fait, bah, ce que tu juges chez les autres, toi aussi... Tu le démontres d'une certaine manière.
Exactement. Et même Jung en parlait. Jung a une citation dont je ne l'ai pas en tête, donc je ne vais pas la dire, sinon je vais salir son travail. Mais en gros, il dit qu'on est clairement ce qu'on passe notre temps à reprocher aux autres. Tu vois, c'est, enfin, il a plein de trucs comme ça quand il parle beaucoup du travail de l'ombre, etc. Et c'est super vrai. Et moi, j'adore cette approche-là, ce que tu viens de dire. J'adore cette approche de dire, ben, va voir. Ouais. Toutes les fois où t'as été hautain, arrogant, etc. Ok, bon, on va s'en remettre.
Ouais, et tu sais ce qu'il nous faisait faire. Et en fait, c'était trop intéressant parce que... Et du coup, c'est l'approche aussi que j'utilise en coaching. C'est qu'il disait, ok, là, t'as 10 situations où t'as été arrogante, par exemple. Et ton cerveau, il va te dire tout de suite, mais c'est pas bien, tu vas ressentir de la culpabilité, etc. Et en fait, ce qu'il te fait faire, c'est qu'il te fait voir tous les bénéfices que ça a eu que t'aies été arrogant.
Bien sûr.
Et en fait, c'est fou, ça te fait vraiment changer de perception.
Ben, ça te fait décomplexer, je crois.
Ouais, exactement.
Ça te fait décomplexer et je me dis si... En fait, pour moi, c'est ça la vraie bienveillance, tu vois, envers soi. C'est ce truc de se rendre compte de ce qu'on est, même dans nos trucs un peu moins cool, quoi. Et de se rendre compte que si on l'est, c'est pour une raison quand même qui est forte, qui est solide. Ça veut pas dire que c'est le meilleur comportement à avoir, mais en tout cas, il y a des bénéfices.
Ouais.
Que bon, bah voilà, on va s'en remettre. Donc, c'est plus de bienveillance envers soi-même parce qu'en fait, je crois que c'est super violent de se persuader qu'on est une personne qui n'a pas de défaut ou de se persuader qu'on doit être une personne qui n'a pas de défaut. Je crois que c'est très violent parce que c'est ce qui fait qu'en fait, on tombe dans on revient dans les 2 mètres carrés. En fait, on passe notre temps à supprimer des parties de nous tout le temps et ça, c'est très, très, très violent.
Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai vu dans ce que tu disais, dans ce que tu partageais dans l'interview avec Nico, et ça a beaucoup résonné avec moi, ta relation à ton apparence. Et tu parlais du fait que ta relation avec ton apparence, elle a un peu changé au fur et à mesure des années, etc. Ça, c'est un gros sujet, je pense, pour beaucoup de femmes. l'apparence, le corps, l'image, c'est quelque chose de très sensible et c'est quelque chose qui touche justement beaucoup de honte, beaucoup de sentiments d'être défaillant, enfin défaillante. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Comment est-ce que ta relation à ton apparence, elle a changé ces dernières années?
Je pense qu'elle n'a pas fini de changer. C'est un vaste sujet. Si tu veux, on repart sur le truc. On repart sur le truc où moi, je me suis toujours dit, j'ai que mon intellect pour moi. Je peux pas être jolie, donc j'essaye même plus d'être jolie ou j'essaye même plus d'être comme ceci. Après, je me suis dit, mais en fait, si. En fait, moi, j'ai envie d'être une femme qui est jolie. Mais en fait, j'ai voulu me construire physiquement dans le regard des hommes et la validation des hommes. En mode, tous les hommes m'ont dit que j'étais pas bien parce que j'étais comme ça, donc apparemment pour être bien, il faut être comme ça. Donc ben, il faut que je fasse ceci, que je fasse cela. Je me suis mise dans des régimes drastiques, sport à outrance, chirurgie esthétique, etc. Jusqu'à ce qu'en fait, je me rende compte une fois que j'avais fait tout ça, que ça ne m'apportait strictement rien à l'intérieur. Pas de bonheur, pas mieux dans ma peau, pas moins complexée, enfin rien du tout. Donc le travail a été plutôt de faire à l'inverse et en fait, attends, ok, moi, comment est-ce que j'ai envie de me sentir bien? Comment est-ce que je me trouve jolie? Après, il faut pas se mentir, c'est jamais juste pour soi. On se construit dans le regard de l'autre. C'est pas très lucide de croire que c'est juste pour soi qu'on fait des trucs. Non, il y a des normes de beauté aussi aujourd'hui. Donc malheureusement, c'est dans notre inconscient, c'est très imprimé. Mais si tu veux, ça a été ok. Comment est-ce que je peux me sortir de certaines choses qui sont finalement beaucoup de projections, beaucoup de souffrances? Comment est-ce que je peux arrêter de chercher la validation permanente et des hommes, et de cette société-là, etc., me réapproprier certaines choses sans en faire complètement un rejet. Parce qu'après, je suis tombée aussi dans un rejet de, en fait, bah vas-y, laisse tomber, moi, je veux supprimer ça, je veux plus être comme ci, il faut plus que je me maquille. Enfin, tu sais, j'ai été un peu dans le rejet complet de tout ce qui était, encore une fois, superficialité, beauté, apparence, etc. Et en fait, pour revenir, je suis en train de revenir, je pense, à un espèce d'équilibre qui est qu'en fait, j'adore prendre soin de mon apparence, et pas tout le temps. Et en fait, maintenant, je suis à l'aise avec les deux. Je suis à l'aise quand j'ai envie de me faire coquette et de m'apprêter. Je suis à l'aise quand je ne suis pas du tout là-dedans non plus. Et ok, est-ce que je peux être sur les deux plans ou pas? Mais avant, le rapport avec mon apparence était super conflictuel. Je suis passée quand même d'une femme qui avait des discours à propos d'elle très, très, très violents. Vraiment très violents. Enfin, je me rappelle que quand je me suis mise avec mon chéri, les choses que je lui disais, c'était... Mais pourquoi la vie m'a faite comme ça? Je suis dégueu. Si je pouvais transplanter ma tête dans un autre corps, je le ferais. Enfin, tu vois, c'était vraiment très, 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 très violent. Ah, aujourd'hui, bon, bah voilà, je ne suis pas parfaite. J'ai encore des complexes, mais de toute façon, je vais faire avec. Et puis, je fais avec. Et puis, voilà, je réapprends petit à petit à mettre en valeur les choses que moi, j'aime. Et puis, voilà, on va voir comment ça va avancer tout doucement. Mais je ne suis pas du tout encore détachée des dictats, des injonctions. Ouais. Si j'en étais complètement détachée,
qu'est-ce qui changerait?
Franchement, je ne sais pas. C'est dur de se projeter parce que je pense que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer.
Ouais.
Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je pense que si j'étais détachée, une des choses dont je suis sûre, c'est si j'étais détachée des injonctions et des dictats autour de la beauté féminine, je pense que je serais beaucoup plus à l'aise même avec la nudité.
Ah, c'est intéressant.
Tu vois?
C'est-à-dire que tu serais plus... Tu serais plus à l'aise dans ton corps, dans ta nudité ou comment?
Non, je serais plus à l'aise avec la nudité qui est que, par exemple, tu vois, bon, c'est pas une nouveauté, mais le fait que les femmes doivent couvrir leur sein en public ou même à la plage, ça, c'est une injonction sexiste. C'est parce que notre poitrine, elle a été sexualisée. Pourquoi les hommes ont le droit de se mettre torse nu et pas les femmes? Parce que nous, notre poitrine, elle est sexualisée. Il n'y a pas d'autre explication que ça, tu vois. Et il y a aussi ce truc... En plus de ça, et ça, c'est des choses dont j'ai pris conscience il y a quelques années, que y a des dictats de ce qu'est une jolie poitrine ou ce qu'est pas une jolie poitrine.
Ça, c'est vrai. Hein. Mais sur toutes les parties du corps, j'ai l'impression.
Sur toutes les parties du corps. Mais c'est lunaire. C'est absolument lunaire. Quand tu y réfléchis, c'est lunaire.
Ouais, c'est vrai.
Même moi, j'en ai conscience. Et en fait, attends, à quel moment, qui a décidé qu'une poitrine qui tombait, c'était moins joli qu'une poitrine qui tombe pas? Et t'as plein de gens qui vont te dire, mais non, mais c'est juste que c'est moins joli, il faut dire les choses. Mais non, tu trouves ça moins joli parce qu'on t'a appris que c'était moins joli.
On t'a appris.
On t'a appris.
C'est vrai.
Mais c'est tout. Si on t'avait pas appris ça ou on t'avait appris l'inverse, tu penserais l'inverse, tu vois. Donc, j'ai conscience de ces injonctions-là. J'essaye quand même de m'en défaire. Mais je sens qu'émotionnellement et dans mon inconscient, ça reste quand même un peu gravé parce que sinon, je pense que j'en aurais rien à foutre de me baigner toute nue dans des rivières et dans des trucs devant les gens. Je pense que je m'en ficherais un peu plus. Et je pense que s'il n'y avait pas autant de normes d'apparence, de beauté, etc. autour des femmes, je pense qu'il y a plein de choses qui n'existeraient pas.
Ouais.
En tout cas, pas de cette manière. Même les vêtements changeraient, la lingerie changerait, les soutiens-gorge changeraient. Il y a plein de choses comme ça qui changeraient. J'en suis sûre et certaine.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je trouve ça hyper intéressant de voir comment on est influencé, mais sur plein de choses. Hein. On est influencé sur tellement de choses. Et sur notre perception de ce qu'est la beauté, on est tellement influencé là-dessus. Parce que, tu vois, quand tu réfléchis à, je sais pas moi... peut-être au XVIIe ou XVIIIe siècle, bah c'était quoi la beauté pour eux, tu vois, d'une femme.
Ouais.
Quand tu regardes, par exemple, les illustrations qu'il y avait des femmes à cette époque-là, bah c'était des illustrations... Enfin, tu voyais pas des femmes avec des six-pack, tu vois, par exemple. Enfin,
ah non,
ça n'existait pas.
Les skinny non plus, ça n'existait pas. Les femmes bronzées non plus.
C'était, ouais.
Ouais, complètement.
Mais il y avait peut-être aussi une autre forme à ce moment-là de dictat de la beauté, tu vois.
C'est sûr et certain. Il y avait un dictat, la peau blanche. Enfin, regarde, même ici, en Indonésie. Tout le monde, alors qu'il fait super chaud, tous les Indonésiens roulent avec des gants, des trucs à manches longues, etc. Parce
que c'est à cause de ça.
Mais il faut pas bronzer, il faut garder la peau la plus blanche possible, parce que la peau bronzée, c'est pas beau, c'est pas joli. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que dans le monde entier, il y a une des normes de beauté qui est, nous, on a quelque part entre guillemets de la chance parce qu'on y correspond, mais qui est absolument terrible, c'est qu'en fait, la norme de beauté, c'est l'homme blanc ou la femme blanche. Mmh. Mais c'est un truc de fou. Si tu regardes en Asie, et il n'y a pas qu'en Indonésie, ils sont tous en train de se cacher la peau, se mettre des cagoules, des gants, des chaussettes dans leur tongs, etc., pour garder la peau la plus blanche possible.
Mais tu sais que je me suis vraiment posé la question pourquoi ils faisaient ça.
Injonction à la beauté. Bah, parce que c'est la blancheur, l'homme blanc, la femme blanche, qui sont un standard dans le monde entier. Et même les publicités, si tu regardes les publicités cosmétiques, mais ça même en Amérique latine, c'est toujours des Caucasiens ou des personnes dont la peau a été beaucoup blanchie. C'est un truc de fou. Alors ça est en train de changer. Je trouve que même en Europe, d'ailleurs, c'est beaucoup en train de changer. Et tant mieux, ça devient de plus en plus inclusif. Mais les standards de beauté, c'est partout, partout. Ouais,
c'est vrai, il y a une pression énorme.
Partout, tout le temps.
C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et en même temps, c'est vrai que je trouve ça très challengeant de s'en détacher. Et je ne suis pas sûre qu'on... Enfin, je ne sais pas si on réussit vraiment à s'en détacher. Peut-être que certaines personnes réussissent.
Peut-être.
Mais un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu t'es déjà sentie impostrice? Je ne sais pas si on dit ça, mais...
Si, ça se dit, je crois que ça se dit.
Est-ce que tu t'es déjà... Est-ce que dans ton parcours... Parce qu'encore une fois, tu vois, quand on te voit aujourd'hui, je pense qu'on peut se dire oh, elle est complètement alignée, elle se sent totalement légitime. Et on pourrait, tu vois, remettre en question le fait qu'à un moment donné, tu aies pu être challengée sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as été, je ne sais pas, par exemple, quand tu as commencé sur les réseaux ou quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es sentie...
Grave.
Ouais.
Alors, si on parle juste de mon boulot, quand je me suis lancée, truc de fou, franchement, c'est une anecdote qui est drôle. Quand je me suis lancée, mon tout premier programme, je crois qu'il coûtait 47 euros, quelque chose comme ça. Donc, voilà, bref, je l'ai lancé. Et en fait, en 4-5 jours, ça a cartonné. J'avais une communauté, je crois, j'avais 10 000 personnes à cette époque-là. Ça a cartonné, bon, super. Et en fait, ma première réaction, ça a été « Oh merde, oh merde, attends, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal ?» Et en fait, je me rappelle, j'ai dit à mon associé « Mais en fait, c'est forcément illégal, parce que si c'était légal, tout le monde le ferait, tu vois ?»
Ah, c'est intéressant.
Donc, ça a été la première réaction que j'ai eue. Et je m'en rappelle que je lui disais même « Non mais attends, on ne peut pas vendre un truc à 47 euros, mais qui va acheter ça ?» Non, il me dit « Mais Chloé, c'est super bien, t'as fait beaucoup d'études pour ça, c'est top ce que tu fais, tout le monde te le dit et tout. » Non, non mais attends, c'est pas possible, moi je ne peux pas vendre un truc à ce prix-là, et puis je ne peux surtout pas vendre un truc, dire aux gens d'acheter, j'avais du mal à vendre. Ouais. Alors que juste avant ça, quand même, j'étais commerciale et je vendais des trucs à des centaines d'euros, qui n'étaient pas de moi, qui étaient un truc dans lequel je ne croyais même pas. Enfin, tu vois la dissonance ?
C'est intéressant.
Je vendais des trucs à des centaines d'euros, des trucs dans lesquels je ne croyais même pas. Et dès que j'ai commencé à devoir vendre un truc à moi-même que j'avais fait, où j'avais mis tout mon cœur et j'avais bossé pendant des mois à 47 euros, j'étais plus capable, tu vois. Donc ça a été le premier syndrome de l'imposteur. Je suis venue à bout au bout de quelques mois, quelques années, en prenant conscience qu'en fait, voilà, c'était des choses qui se jouaient dans ma tête, que j'avais besoin aussi de me faire confiance, que de toute façon, il y aurait toujours des gens qui seraient forcément déçus. Donc j'ai dû apprendre aussi à dealer avec ça, avec la peur de décevoir, à me faire confiance. Et en fait... la légitimité est venue et s'est vraiment installée à partir du moment où j'ai décidé de parler ce qui faisait sens pour moi et de mon expérience uniquement.
Ah.
Personne ne peut personne ne peut remettre en question mon expérience puisque c'est ce que j'ai vécu et c'est unique. Donc, j'ai parlé de mon expérience, des choses que j'intégrais, que je connaissais. Et c'est aussi pour ça qu'encore aujourd'hui, je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas parce que je ne les ai pas vécues. Je ne veux pas parler de trucs juste que j'ai lus dans des livres. Je ne parle que des choses que j'intègre, des réflexions que j'ai pour moi, des choses que je traverse ou que j'ai vécues, des choses que j'ai apprises. C'est légitime, point, en fait. Voilà. Et c'est là où j'ai envie de me situer. Donc, dans mon job, je n'ai plus du tout de syndrome de l'imposteur là-dessus. Là où j'en ai eu, par contre, c'est par rapport à l'entrepreneuriat, sur le fait de pouvoir divulguer des conseils aux entrepreneurs. Je le fais depuis pas longtemps.
Ok.
Seulement, ouais. Parce qu'en fait, jusqu'ici, je pensais qu'en fait, j'étais une impostrice finie, dans le sens où je ne suis pas comme... Enfin, ma manière de fonctionner ne ressemble pas à tout ce qu'on entend par rapport aux conseils entrepreneuriaux. Je sais qu'on en a déjà un peu parlé en off. Mais tu vois, par exemple, on nous dit toujours qu'il faut déterminer ton avatar, qu'il faut faire une étude de marché, qu'il faut avoir des stratégies, machin. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, c'est depuis le début, c'est super instinctif. Je me lève un matin, j'ai une idée, je sais exactement ce que je veux faire pour Kikop, hop, je le balance. Je ne me suis pas posé de questions sur l'avatar, les trucs. Enfin, je n'ai jamais fait ça. J'ai une manière de faire du business qui est extrêmement instinctive et qui est très... alors moi, j'appelle ça spontané, mais c'est très... non, je veux le faire, bam, j'y vais. C'est beaucoup, si tu veux, dans le mouvement et beaucoup dans l'instinct et beaucoup dans le feu, etc. J'ai toujours fonctionné comme ça, ce qui fait que je ne me reconnais pas dans la plupart des conseils business qui sont donnés. Travailler son efficacité, de travailler tu vois, sa productivité, son truc de concentration, ses idées structurées, machin. Non, moi, c'est pas une question, je me pose pas la question en fait. Je me pose pas de questions, j'y vais, bop, et j'ai ma manière de fonctionner. Ce qui fait que je me suis dit, merde, vu que je fonctionne pas comme tous les conseils business qui sont donnés, où il faut donner des stratégies très précises, se soucier des taux de clics, de machin, de trucs. Bon, bah moi, visiblement, j'ai rien à donner, j'ai rien à partager, je suis une impostrice, je sais pas comment je fais, donc ça veut dire que j'ai pas le droit. Tu vois ?
Ouais, ouais.
Et en fait, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, non, c'était encore une fois des fausses idées que je me faisais, c'est qu'en fait, peut-être que je pouvais faire passer ma manière d'entreprendre et ma manière de faire du business, qui finalement est plus instinctive et aussi vachement branchée spiritualité, émotion, ressenti, capacité extrasensorielle, etc. Et en fait, ça a vachement parlé.
Ouais, mais je pense qu'on a besoin de ça. Enfin, je pense vraiment que, bah déjà, il n'y a pas une manière, qu'une manière de faire du business. Enfin, c'est sûr, tu vois. Et ce que tu décris, je trouve qu'il y a un côté un peu... c'est peut-être une manière de faire du business qui est aussi connectée à ton yin, à une spiritualité. Et moi, ça me parle beaucoup.
Ouais.
Parce que je sais que quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux... C'est une intuition qui m'a amenée à me lancer.
Ouais, je me rappelle, on en avait parlé.
Ouais, c'est vrai, je me rappelle, ouais. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et je pense que, justement, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'entreprendre, mais qui ne se reconnaissent pas non plus dans ces discours-là, tu vois, de « faut faire un avatar, faut trouver ta niche, faut que tu sois... » Et tu vois, qui ont besoin aussi d'avoir quelqu'un qui leur dit « attends, il y a une autre manière de faire. Je peux te partager ce que moi j'ai fait et comment moi j'ai procédé. » Et ça donne la permission aux autres de faire autrement, ouais.
Ouais, j'aurais peut-être eu besoin que tu me le dises avant. parce que je te jure, c'est vraiment récent, ça fait un an et demi, quoi, même pas, tu vois. Avant ça, je me disais, j'ai rien à partager. Les gens me disaient, mais comment tu fais pour construire un business comme ça, porter ta voix, réussir sur les réseaux? Et moi, la réponse, c'est, je sais pas. Je ne sais pas. Je fais ce que j'aime faire et je fais ce que j'ai envie de faire et je le sens et j'y vais parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire et j'aurais eu besoin d'entendre ce que tu viens de dire avant, je pense aussi, tu vois, parce que vraiment, pour moi, c'était moi l'impostrice, tu vois.
Je vois trop ce que tu veux dire, mais je comprends trop ce que tu veux dire. Je pense que... Moi, je trouve que c'est hyper, hyper important de réaliser que, justement, après, c'est ma manière de voir les choses, mais... Je pense que ça marche aussi bien parce que justement, c'est pas juste une stratégie.
Je suis d'accord avec toi.
Voilà, ça c'est vraiment mon point de vue, c'est que ça marche aussi bien parce que ça vient d'une source plus vraie que juste une stratégie qu'on applique de étape 1, étape 2, étape 3. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, alors moi j'utilise pas le mot vrai, j'utiliserais le mot plus profond, mais je pense que ça veut dire la même chose. C'est. En fait, c'est que, tu sais, je crois que quand on arrive à mettre le doigt sur, tu sais, ton cœur de magma, j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si ça te parle, mais tu vois, le cœur en fusion, si tu mets le doigt sur ton magma, tu le fais, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de question à se poser, tu vois. Et en fait, c'est ça, ce truc, c'est que je pense aussi, que quand ça émane de ton énergie la plus vibrante, profonde, puissante, vraie, appelle ça comme tu veux, ça rayonne plus facilement aussi. Ouais. Ça, j'en suis convaincue aussi.
Ah, c'est vrai.
Ça, j'en suis convaincue.
C'est plus fluide, en fait, je pense. Ouais. Que quand c'est... Quand t'es dans ton mental, et je trouve que c'est des stratégies qui peuvent t'amener beaucoup dans ton mental, t'es moins dans cette fluidité et il y a plus de résistance, je trouve. Tu te dis, t'intègres les valeurs d'un coach ou d'un formateur, etc. Tu te dis, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, mais ça résonne pas vraiment, donc je suis en résistance et j'arrive pas à avoir les résultats que je veux.
Et t'as beaucoup de gens, tu sais, qui restent bloqués, mais je pense que toi, tu dois en voir dans tes clients aussi, tu sais, qui restent bloqués entre le truc de... bon d'accord mais ça marche pas, je voudrais que ça marche, comment je peux faire, alors qu'en fait la plupart du temps il faut juste en faire moins, c'est attends, calme-toi,
c'est ça.
On se calme, juste tu te calmes et juste, ok, toi t'es qui, t'aimes quoi, en quoi tu crois, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que t'adores, qu'est-ce qui te tient à cœur, c'est quoi tes combats, c'est quoi tes kiffs, bon voilà.
Exactement.
Souvent, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de stratégie.
Non, bien sûr.
Mais souvent, c'est en faire moins et faire taire un peu tout ce brouhaha pour revenir à un truc plus essentiel, quoi.
Totalement, totalement. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'au début, tu avais un peu peur de vendre et de mettre en valeur tes services. Je trouve que ça, c'est un sujet tellement trop important parce que moi, je sais que ça a été une de mes plus grosses peurs. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je travaille encore pour prendre ma place un peu plus, tu vois, à ce niveau-là. Parce que ça revient un peu à ce qu'on se disait avant de « Ah bah, tu peux pas être bienveillante ou bien intentionnée plutôt et en même temps vendre et en même temps... » Tu vois, il y a ces trucs de... Et pourtant, tu vois, je veux dire, je reçois pas tellement de messages qui me disent qui sont dans le jugement quand je vends ou quand je parle de mes programmes, etc. Mais dans ma tête, il y a ce truc de « Si je prends encore plus ma place à ce niveau-là, ah, on va discréditer d'autres qualités que j'ai. » Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à te détacher un peu plus de la peur de vendre et comment ça s'est passé pour toi ?
Les gens qui vont te dire ça, c'est des gens... C'est pas les gens que t'as envie d'attirer, quoi, en fait.
Ouais, c'est vrai.
En fait, c'est juste ça. C'est moi, j'ai pas envie de vendre à des gens comme ça.
C'est clair.
Et j'ai pas... En fait, pour moi... Je te dis comment ça résonne aujourd'hui maintenant, parce que c'est sûrement une réponse de merde que je vais faire.
Mais non.
C'est qu'en fait, c'est plus un sujet. Je comprends pas. En fait, c'est plus un sujet. Quand on va chez Zara s'empêche pas de vendre un truc. Il propose un truc, t'achètes, même si c'est de la merde. Voilà. Et c'est souvent de la merde. Et t'achètes. Ok, bon, d'accord. Donc, je veux dire, pourquoi moi j'aurais peur de vendre ? Je fais de mal à personne. C'est revoir son rapport à l'argent aussi. Je suis pas en train de manipuler quelqu'un pour vendre, je suis pas en train de le forcer à vendre, je suis pas en train de le maltraiter pour vendre. Faut aussi faire attention à ça, bien sûr, pas tomber dans des manipulations, etc. Mais je veux dire, personne n'est obligé d'acheter là. Bon, je propose, si t'achètes, c'est que tu t'y retrouves. Au pire, t'es pas content, t'es déçu, t'auras un remboursement ou pas, ça dépend. Mais je veux dire, enfin, on est juste en train de faire une transaction. Donc en fait, faut juste remettre les choses à leur place. C'est juste une transaction, c'est pas un sujet en fait. Donc le truc, c'est que souvent derrière la peur de vendre se cachent des soucis de rapport à l'argent, se cache forcément le syndrome de l'imposteur aussi, comme t'en as parlé tout à l'heure. Mais c'est aussi souvent parce qu'on a l'impression qu'on est en train de forcer la personne ou qu'on est en train de lui faire du mal ou qu'on est en train de lui prendre quelque chose.
Ouais, c'est vrai.
Mais en fait, on est juste dans une transaction. Et moi, c'est vraiment pour ça que c'est devenu un non-sujet, c'est en fait... Moi, je propose un truc, t'as envie de l'acheter, tu l'achètes, t'as pas envie de l'acheter, tu l'achètes pas. Moi, je m'en fous. Dans les deux cas, je m'en fous. Ça changera rien à notre relation. Si t'aimes pas le fait que je vende des trucs, c'est que t'as pas compris ma manière de fonctionner, c'est pas grave. C'est que t'es dans un esprit qui est encore peut-être fermé de... En fait, pour être une bonne personne, faut pas vendre.
Ouais, c'est ça.
Oui, mais ça, c'est...
Ça, c'est une croyance que beaucoup de gens ont. Hein.
Oui, mais ça, c'est un manque de conscience, Marianne.
Ouais, je suis désolée,
ces gens-là, ils vont bien faire les courses, ils vont bien acheter des fringues, ils vont bien... Enfin, je veux dire, tout le monde achète des trucs, c'est des gens qui ont un iPhone dans les mains. Ils achètent des choses, tu vois, enfin voilà.
Ouais, c'est vrai, mais dès que tu parles de sujets un peu plus profonds, humains, il y a ce truc de... Tu vois, moi, il y a une personne dans ma famille avec qui j'ai eu pas mal de conflits à cause de ça, parce qu'elle me disait, tu peux pas aider les gens et vouloir gagner beaucoup d'argent.
Non, du coup, les médecins n'ont pas de thunes, d'ailleurs.
Oui, mais du coup, non, mais parce que cette personne, justement, elle me disait, c'est pas bien que les médecins gagnent beaucoup d'argent. Okay, et donc, on a eu derrière un débat de... Et pour moi, c'est justement, pourquoi est-ce que tu gagnerais pas limite plus d'argent quand tu fais du bien aux gens, quand tu divertis les gens ou quand... Alors après, c'est une question de jugement là bien aussi, sûr, tu vois, mais c'est beaucoup plus accepté de vendre dans certains domaines que dans d'autres.
Oui, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et je suis pas d'accord avec ce concept d'ailleurs.
Ouais.
Bon, forcément. Il y a un truc qui revient souvent, je pense qu'on a dû te le dire aussi, c'est se faire de l'argent sur le dos des gens.
C'est ouais,
en gros,
c'est
profiter du mal-être des gens pour se faire de l'argent. Je pense qu'il y a des dérives, en fait. Mmh. Je pense qu'il y a des dérives, effectivement, qu'il y a des milieux, peut-être dans la médecine, et encore, je ne suis pas tout à fait sûre, je ne connais pas exactement tout ce qui s'y passe, mais je pense qu'il y a des dérives, notamment il y a des dérives avec les lobbies pharmaceutiques, où là, bon, c'est absolument scandaleux, et en effet, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de manipulation d'argent sur la santé des gens, etc. Là, on ne parle quand même pas des mêmes choses avec nos métiers. Ça part encore une fois de la croyance de quand tu es une bonne personne, tu n'as pas le droit de vouloir plus, tu dois être dans la dévotion totale.
C'est exactement ça. Tu dois limite être dans le sacrifice.
Oui. Mais ça, tu sais ce que c'est ? Injonction judéo-chrétienne.
Ah ouais ?
Injonction judéo-chrétienne. Dévotion, donc pas de profit. On est toujours sur ce discours de fond. Et honnêtement, si tu regardes, il y a très peu de personnes de notre génération qui pensent comme ça. Et les générations là, les plus jeunes que nous, pas du tout.
Ouais, c'est vrai.
C'est toujours des générations un peu avant, parce que c'est beaucoup d'injonctions judéo-chrétiennes de quand tu es dans la dévotion, tu dois être dans le sacrifice de toi, donc tu dois faire vœu de chasteté, de pauvreté, de toutes ces choses-là.
Ouais.
C'est juste des injonctions judéo-chrétiennes, c'est comme ça qu'on a été éduqués, c'est comme ce truc super français de faut être humble.
Ouais.
Donc s'il te plaît, aime-toi mais pas trop, réussis mais pas trop, sois beau mais pas trop. Ouvre ta bouche, mais pas trop quand même. Et surtout, sois humble. Ne t'aime pas trop, sinon t'es pas humble. Ça, c'est injonction judéo-chrétienne. Et là, je peux me tromper, mais je trouve que c'est quand même vachement en train de partir.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça sous cet angle-là, mais c'est vrai que les générations après nous, c'est pas quelque chose qu'on... Après, il y a aussi, le mouvement woke aussi.
Ouais, je pense que ça doit jouer aussi.
Il y a quelque chose là-dedans, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et aujourd'hui, tu te sens comment dans ta relation à la vente, au fait de...
Franchement, comme je te disais, non sujet, dans le sens où j'ai toujours peur que mes produits ou que ce que je propose, ça déçoive, parce que ça, c'est ce truc... je trouve ça sain, tu vois.
Je trouve ça sain aussi,
moi aussi, je trouve ça super sain.
C'est pas quelque chose que je veux perdre, ça, ouais.
Ouais, ça me permet de garder les pieds sur terre, de rester toujours dans l'amélioration, de toujours essayer de faire en sorte de proposer des choses qui soient vraiment professionnelles. Mmh. Tu vois, moi, je trouve ça sain, mais j'ai toujours un peu cette appréhension que ça déçoive, que ce soit pas assez bien, etc. Ça me bouffe pas, ça m'empêche pas de le faire pour autant. Là où ça devient problématique, c'est quand ça t'empêche de le faire, tu vois. Mais après, vendre, en fait, c'est pas un sujet. C'est juste que si je propose quelque chose, à un moment donné, bon, bah, faut que je le vende, quoi, tu vois.
Ouais.
Bon, bah, voilà, c'est pas un sujet. Et puis, moi, j'ai trouvé mon équilibre en proposant beaucoup de choses gratuites, beaucoup de podcasts, beaucoup de trucs comme ça. Et puis, ben, ceux qui veulent aller plus loin, ils achètent. Mais encore une fois, ben, t'achètes pas, c'est pas grave, en fait, c'est pas un sujet. Que t'achètes ou pas chez moi, c'est pas un sujet pour moi. Et si c'est un sujet pour toi que je vende quelque chose, c'est que tu as quelque chose à régler avec l'argent.
Ouais, bon, c'est vrai.
C'est pas grave.
Complètement.
C'est pas
complètement.
Grave. Pour ça, Christian Junot est très bon, je sais pas si tu connais.
Oui, il est génial, il est génial.
Il est incroyable. Ouais. Bah ouais, lui, il parle super bien, justement, tu vois, de tout ça, de rapport à l'argent, la vente, etc. Mais alors moi, il me fait mourir de rire.
Et il paraît qu'il est drôle, ouais.
Et en fait, tu vois, mais tu sais quoi, si tu fais ça la prochaine fois, à tous les gens qui te reprochent de vendre un truc ou qui te mettent, ouais, c'est pas bien, tu te fais de l'argent sur le mal-être des gens, machin, tu tags Christian Junot, tu dis, va voir Christian. ça suffit, je veux dire, c'est juste ça. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Faut mettre les choses à leur place. Hein.
Ouais, non, mais c'est vrai que. Et puis il y a aussi la technique de dire, bah oui, t'as raison. Moi, je trouve que parfois, il y a tellement. C'est tellement un débat de sourds de parler avec ces gens-là que juste.
Ah, voilà.
C'est vrai, t'as raison, je me fais de l'argent sur le dos des gens, tu vois.
Exactement. Tu sais, alors bon, je suis super vulgaire dans cette interview. Mais on a un dicton, mon associé, on a un dicton aussi dans la boîte. Quand justement on est face à des dialogues de sourds un peu comme ça, on dit, tu sais, c'est discuter avec un con, c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Il va chier sur l'échiquier et se barrer. C'est vrai.
Mais
tu peux
vrai,
rien faire,
c'est
en
vrai,
fait.
C'est vrai.
Donc bon, bah voilà, tu t'as Christian la prochaine fois et puis c'est tout et tout le monde sera content. Et tu peux rien faire.
Ouais.
Et en fait, le truc, c'est qu'il faut aussi être quand même lucide. C'est que peu importe ce qu'on pense de l'argent, on vit dans une société qui, pour le moment, utilise encore l'argent pour fonctionner.
Ben
d'accord.
Oui.
Moi, je souhaite qu'un jour on ait une société qui fonctionne plus avec de l'argent. L'argent, c'est pas juste quelque chose de neutre comme tout le monde dit. et ça c'est mes croyances personnelles, c'est que l'argent aujourd'hui, plus t'en as, plus t'as de pouvoir, et malheureusement ça fonctionne encore comme ça, et que du coup c'est ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se retrouvent avec beaucoup de pouvoir dans les mains, et c'est, malheureusement c'est pas cool. Mais bref, en tout cas, on va pas tordre le réel. Le réel est que ben, on est sur une société qui fonctionne encore avec de l'argent. Donc ben, pour vivre dans cette société-là, on peut faire avec, avec notre éthique, avec notre valeur, mais il faut aussi faire avec.
Voilà. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord.
Plus loin.
Trop bien. Je voulais qu'on parle aussi de ton cercle et de tes relations amicales et comment ça, ça a changé au fur et à mesure du temps. Je serais hyper curieuse que tu nous en parles parce que je trouve que quand on entreprend et tu vois, quand on est sur ce chemin-là de se découvrir, d'être un peu plus à l'aise avec qui on est vraiment et dans toutes les parts de nous, souvent notre cercle change un peu de forme, enfin voilà, il prend différentes formes. Ça a eu quoi comme impact sur toi?
J'ai bien envie de t'entendre aussi là-dessus.
Ouais,
du coup,
carrément.
Ça m'intéresse
trop.
Alors, il y a eu plein de choses. Quand j'ai commencé à entreprendre et à faire ce que je fais, ça, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est une grosse introspection de soi, mais aussi de notre entourage, parce que forcément, ça met en lumière plein de trucs. T'as des gens qui te critiquent, des gens qui te soutiennent pas. Moi, j'ai été beaucoup critiquée quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, donc ça m'a fait couper aussi avec certaines choses. Après, ben voilà, l'éveil de soi, la conscience de soi et le fait d'apprendre à poser mes limites et à me respecter, ça m'a fait aussi mettre fin à des amitiés, en fait, que je me rends compte n'étaient absolument pas des vraies amitiés, qui étaient pas saines. Le vrai truc, c'est que ça m'a fait resserrer mon cercle. Plus que tout, ça m'a fait resserrer mon cercle très profondément sur, au final, mes meilleurs potes qui sont là depuis que j'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, tu vois, mes meilleures amies, elles se comptent sur les doigts d'une main. C'est des femmes qui sont là depuis toujours et, je veux dire, il y a une confiance aveugle. Ça m'a fait mettre fin à des amitiés qui n'étaient pas forcément cool. Dans ma famille aussi, ça m'a fait avoir des discussions qui n'étaient pas forcément agréables. Mais ça m'a fait aussi m'affirmer beaucoup plus, notamment face à mes parents, face à mes frères et sœurs, en mode, ça c'est qui je suis. Moi, je crois en moi, peu importe ce que vous direz. De toute façon, ça c'est un trait de personnalité. Moi, je suis fonceuse, donc peu importe ce que tu me diras. Quand j'ai un truc en tête, il n'y a rien qui m'empêche de le faire, tu vois. Donc voilà, je l'ai fait, mais ça a ouvert des discussions qui sont cool et qui fait qu'au final, ben, les gens qui me critiquaient un peu, qui ne croyaient pas en moi, tu vois, au début, maintenant, on en rigole et voilà, et ça s'est vachement assaini. Donc en fait, dans mon cercle très proche, ça n'a rien changé, si ce n'est que ça a fait que resserrer les liens. Là où par contre, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, c'est que du coup, c'est devenu... Mais ça, je crois que c'est plus la visibilité qui a fait ça. Et j'aimerais vraiment t'entendre là-dessus, ça m'intéresse vraiment. La visibilité fait que c'est encore plus difficile de s'entourer parce que du coup, la plupart du temps, il y a des trucs qui se jouent qui ne sont pas tout à fait justes. Par exemple, parfois c'est un peu opportuniste, parfois tu sens qu'il y a des besoins, parfois c'est une envie de visibilité. Puis je suis toujours recontactée par des gens qui étaient au collège ou au lycée avec moi. « Ah, tu ne te rappelles pas, on était potes, alors en fait, du coup, je voulais savoir si tu pouvais me faire une vidéo pour l'anniversaire de machin parce qu'elle t'adore. » Enfin, tu vois. Et en fait, tout ça... Ça fait que petit à petit, mais ça, c'est vraiment la notion de visibilité. Ouais. Et tu vois, pourtant, je ne suis même pas connue. Enfin, je veux dire, j'imagine même pas comment font les gens qui sont vraiment connus au coin de la notoriété. Ça doit être l'enfer.
Ouais.
Ça m'a fait resserrer. Ça a installé une espèce de méfiance aussi à l'intérieur de moi, que j'essaye de, pas de combattre, mais que sur laquelle j'essaye d'être vigilante parce que sinon, je sens que mon cœur, il se referme. Parce que dès que tu rencontres quelqu'un et que tu sens qu'en fait, c'est par intérêt... ou qu'en fait, il ne s'intéresse pas fondamentalement à toi et que c'est pour autre chose, ou qu'il y a toujours besoin d'une petite opportunité business, ou tu vois, même vraiment le fait d'être recontacté tout le temps par des gens, même des gens qui n'ont pas été cool avec moi à l'école, ou des gens, en fait, non, on n'était pas du tout potes, tu réinventes une amitié qui n'a pas existé parce qu'en fait, visiblement, tu essaies d'obtenir un truc de moi, ben, ça fait qu'en fait, tu resserres. Et aujourd'hui, Ça me convient parce que je suis assez introvertie, je pense un peu comme toi là-dessus.
Ouais, carrément.
Ça me convient, tu sais, moi je suis ermite, on est pareil là-dessus, tu vois. Mais en vrai, c'est difficile de s'entourer. Et lier des vraies relations amicales, c'est difficile. Ça ne me dérange pas plus que ça parce que j'en ai pas fondamentalement envie. Je ne suis pas une grande extravertie qui a besoin de plein de relations. Mais honnêtement, de m'ouvrir vraiment, c'est très difficile et ça arrive très peu parce que je me rends compte qu'il y a toujours un truc, soit une opportunité, soit... une envie de se rapprocher de moi parce que la personne, elle est un peu dans l'idéalisation. Et ça, c'est pas OK. On peut pas avoir une relation avec quelqu'un qui nous idéalise. C'est bizarre. Soit au contraire, parce que la personne, elle m'attend un peu au tournant et qu'elle veut prouver que je suis une connasse. Ou, tu vois, ça arrive beaucoup aussi. Et qu'il y a des trucs un peu de « Ah, je veux me rapprocher. Je t'avais dit qu'elle était comme ça pour du gossip et des trucs. » Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, dès que je sens qu'il y a quelque chose de pas tout à fait net, moi, je reste dans ma posture de Chloé Bloom, entre guillemets. Et qui est ce qu'on disait au tout début, le fait, je les laisse dans les cercles extérieurs. Et du coup, mon petit cercle, mon petit cœur, en fait, il y a peu de gens qui ont accès. Ça me protège, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que des fois, je me dis que, si j'étais pas visible, si je faisais pas ce job, je pense que ça serait peut-être plus... plus fluide ou plus spontané parfois juste de rencontrer des gens. Donc au final je m'entoure de gens qui me connaissent pas du tout des réseaux, qui savent pas ce que je fais et c'est cool et ça marche bien, tu vois. Ou quand je sens que effectivement c'est fluide et il y a pas de souci. Donc ça c'est ce que ça a changé dans mes relations. C'est plus de méfiance et plus de solitude aussi, je crois, faut le dire. Et toi alors?
C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je trouve que vraiment la visibilité c'est probablement un des trucs qui est le plus impactant. Parce que finalement, tu peux entreprendre et tu peux avoir même beaucoup de succès dans ton business. Mais bon, les gens ne vont pas forcément le savoir déjà. Ouais. Et puis, c'est vrai que la visibilité, ça a un effet assez intéressant sur les gens qui, moi, m'a beaucoup étonnée parce que j'ai vu la différence dans la manière dont les gens me parlaient et me traitaient. Dès que j'ai commencé à avoir un peu d'abonnés ou des choses comme ça, c'était... Waouh, la star, non, des trucs comme ça un peu. Et puis tu vois qu'ils sont beaucoup plus gentils avec toi, qu'ils te considèrent différemment. Juste, tu le sens, tu le vois dans la manière dont ils fonctionnent. Et puis d'un coup, j'ai vu qu'il y avait des gens qui commençaient à vraiment vouloir. Et moi, je pense que j'ai toujours eu ce truc de. Vu que j'étais harcelée à l'école, et enfin, par rapport à mon histoire, j'ai toujours eu cette croyance de. De toute façon, les gens ne voudraient pas être amis avec moi. Donc j'avais toujours ce truc de. Il faut que je mérite l'amitié des gens. Enfin, il faut que je mérite que les gens veuillent être amis avec moi. Et donc, ce que je faisais pour ça, c'était que je leur rendais service, ou j'étais un peu leur psy, ou je les écoutais des heures et des heures, et je les coachais sans même m'en rendre compte.
Je ne choisis pas son métier pour rien, quand même.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je prenais un peu leur souffrance, etc. J'essayais d'être utile pour me sentir méritante de leur intérêt, de leur amitié. Et en fait... Avec la visibilité, j'ai vu que j'avais ce truc qui se réveillait de « Ah, c'est cool, les gens ont envie d'être amis avec moi. » Mais très vite, je me disais « Non, mais Mariam, c'est pas qu'ils ont envie d'être amis avec toi, c'est qu'ils ont envie de prendre quelque chose, quoi, en fait, tout simplement. »
C'est triste quelque part. Enfin, moi, ça me touche, tu vois, ce que tu me dis. Je l'ai ressenti aussi, ça me touche pas de la même manière que toi, parce que j'ai pas... vécu de harcèlement et j'ai plutôt été dans l'opposé où il y avait toujours des gens qui voulaient être potes avec moi alors que je voulais pas, c'était plus ça. Mais c'est triste et en fait moi ça m'interpelle, je me demande en fait pourquoi est-ce que je sais pas, je comprends pas pourquoi les gens idéalisent les gens qui ont plus de visibilité. Enfin, en plus je veux dire c'est juste de la visibilité, on n'est pas des restas, on n'a pas accompli des trucs de malade,
bien sûr.
Enfin, c'est rien quoi, tu vois. J'ai du mal à comprendre et en même temps je comprends ce que toi tu peux ressentir et c'est pour ça que je parlais de solitude.
T'es obligée en fait à un moment donné, je pense que tu deviens meilleure dans ta capacité à voir et à ressentir qui est intéressé et qui est réellement sincère. Mais parfois c'est quand même difficile de savoir, tu vois, mais tu deviens je pense de plus en plus clair sur OK, cette personne, je sens qu'elle est intéressée par quelque chose. Et moi, franchement, je l'ai un peu mal vécu, ça, parce que je me suis sentie un peu utilisée. Enfin, tu vois,
il y a ce mot, utiliser, c'est moi, franchement, faut le dire. Moi aussi, je l'ai très mal vécu,
c'est vrai.
Faut le dire. Je pense que personne n'en parle parce que dès qu'on en parle, tu as des gens qui vont dire ah, mais c'est bon, vous vous prenez pour je sais pas qui, machin. Non, en fait, on dit juste les choses. Moi aussi, je l'ai très mal vécu. Et ça a fait office de séance de psy, ça a fait office de vraiment d'un gros travail aussi, parce que je l'ai super mal vécu, parce que j'ai pas compris, je me suis sentie utilisée. Que c'est, tu sais, tu parlais d'affiner un peu son radar à sentir ça, mais le truc, c'est que des fois, tu as beau avoir un radar qui est très fin. Moi, j'ai un radar que je sens tout de suite. je ne fais pas tout à fait confiance à ce que je ressens. Donc, j'essaie toujours de trouver des excuses aux gens et de me dire, non, mais attends, c'est moi qui invente. Mais non, mais je pense qu'elle est gentille. Non, mais attends, ce n'est pas possible. Puis, tu te remets tout le temps en question, ce qui fait que la relation prend place et que ça finisse. Il y a un jour où ça devient extrêmement agressif et agressant parce qu'en fait, c'est dans une relation qui a déjà été bâtie. Et oui, ça fait mal. Oui, je l'ai très mal vécu. Maintenant, en fait, j'ai juste compris qu'en fait, il ne faut plus que je mélange tout et qu'il faut que je me resserre et qu'en fait, il faut que je fasse profondément confiance en mes ressentis et que quand je sens qu'il y a une fluidité, une sincérité, c'est OK. On ne mélange pas le travail avec le reste. C'est pour ça que je dis toujours, moi, il y a Chloé Bloom et il y a Chloé. Chloé Bloom, c'est mon travail quand je mets mon bleu de travail et que je pars au travail. Le reste du temps, c'est Chloé. Et tout le monde n'aura pas accès à Chloé. Mais ceux qui ont accès à Chloé, ils ont entièrement accès à Chloé. Tu vois, c'est vraiment ce truc. Mais je crois que c'est important d'en parler, de dire que on le vit mal et qu'en fait, c'est parce qu'on se sent utilisé, en fait. Mais c'est réel.
C'est hyper, hyper réel. Et c'est fou parce que, moi, je trouve ça tellement intéressant, tu vois, juste humainement d'analyser ça et de se dire comment est-ce que certaines personnes pensent que on s'en rend pas compte, tu vois. Enfin, c'est... Non, mais juste...
Comment on peut être aussi con?
Voilà, dis plus directement, c'est exactement...
Pardon, excuse-moi.
Non, mais c'est vrai, mais c'est ça. C'est
comment t'as pu penser deux secondes que je me rendrais pas compte?
non, mais attends, mais c'est tellement clair.
Tu m'avais pour une teubée.
Je te jure, mais vraiment, enfin, ça me fascine. Hein.
Ouais, ben, parce que la projection est plus forte.
Ouais.
La projection est plus forte. Il y a une espèce d'avidité. Mais c'est de la projection, tout ça.
Ouais, c'est ça.
C'est de la projection.
C'est ça. Donc, non, je comprends. Et il y a l'autre côté de... J'ai pas envie d'avoir trop de suspicions. Et en même temps, je pense que t'es obligée d'avoir ce côté « je fais attention ». Mais par contre, ça a eu un super bon effet sur moi, ça. Parce que ça m'a beaucoup aidée à sortir de ce besoin de plaire et de... En fait, j'ai plus ce truc de... Ah, je suis trop contente que tu veuilles passer du temps avec moi ou être amie avec moi. Tu vois, c'est maintenant, c'est plus... tu sais quoi j'en ai plus besoin comme avant. Et du coup, quand quelqu'un s'intéresse à moi et que je sais que c'est par rapport à ça, en fait, ça m'intéresse pas. Juste, j'arrive à mettre des limites alors qu'avant, j'aurais entretenu le truc juste parce que ça nourrissait quelque chose que je pensais manquer, tu vois.
Franchement, je vois tout à fait. Même si c'est pas un truc que j'ai vécu, je vois bien.
Ouais.
En fait, tu sais, comme je dis toujours, je crois que nos métiers, on les choisit pas par hasard, mais que là où ça vient le plus nous chercher, en fait, ça nous fait tellement travailler. Tu sais, je sais pas pour toi, d'ailleurs, ça m'intéresserait vraiment de savoir, mais genre, moi, une de mes plus grandes peurs, c'est de pas être aimée, de déplaire, tu vois. J'ai quand même choisi le métier qui vient te confronter à la plus grande, cette peur-là précisément, tu vois. Génial en fait. Et c'est comme si du coup, par cette adversité, où tu vois ces petits challenges, ces petites épreuves, ces petites résistances, tu vois, en fait, tu vas juste gagner encore plus en libération, 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 libération. C'est pour ça que je dis toujours, la résistance, c'est le guide. Suite à résistance, là où il y a de la résistance, il y a de la libération derrière. Donc, il faut vraiment aller tirer tous ces petits fils, quoi. Va chercher toutes tes petites résistances et tout là où tu vois, ça pique, parce que derrière, la libération, elle est folle. Et si on n'avait pas été confronté à tous ces, tu vois, les jugements, ce truc d'utilisation et tout, peut-être qu'on en serait encore en train de dire, tu veux être amie avec moi.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça.
Ouais.
Exactement. C'est pour ça que je pense que c'est hyper bénéfique, parce que du coup, t'es... Et puis si vraiment, moi, je pense que ça m'a beaucoup aidée dans le sens où je me suis... C'est tellement important à mes yeux ce que je fais que j'ai commencé à me poser la question, mais où est-ce que tu mets ton temps, en fait? Est-ce que tu mets ton temps encore et encore à vouloir donner aux autres pour gagner leur intérêt et leur amour, alors que derrière, tu reçois rien en retour? Tu peux plus te permettre de faire ça. Tu vois, maintenant, il va falloir que ça change.
Tu te rappelles, au tout début de l'épisode, là, je disais, quand tu comprends la valeur de ton temps et de ton énergie...
Exactement.
Tu respectes.
Tu respectes. Et les autres aussi te respectent.
C'est plus un sujet.
Ouais, c'est vrai.
La boucle est bouclée, c'est exactement ça.
J'adore, trop bien. Je vais regarder l'heure. Ah, il est 11h, ok.
T'as loué jusqu'à quelle heure?
11h.
D'accord, ils vont venir nous chercher.
Ouais. Attends, je réfléchis juste à... Bon, ok, je vais te poser une dernière question. Ok.
Bon, s'ils toquent, on leur dira 5 minutes au pire.
Oui. J'ai une dernière question pour toi, même si en vrai j'en ai plein d'autres et je pense qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures.
On pourrait boire un café.
et la question c'est, si t'avais la Chloé d'avant devant toi, celle qui était en colère ou qui pensait vraiment qu'elle n'était pas assez ou qu'elle n'était pas suffisamment belle ou suffisamment tout ce qu'elle pouvait avoir comme idée en tête et qu'elle était devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je crois que je lui dirais quelque chose dans le goût de... ne te précipite pas à faire des choix que tu vas pas regretter, mais ne te précipite pas à changer qui tu es, parce qu'il y a un jour où tu vas être tellement bien dans tes pompes qu'en fait tu seras confiante, sereine, tu seras même un modèle d'inspiration pour certaines. Donc crois en toi, tu vois. Juste ça, tu vois. Te précipite pas trop à essayer de correspondre aux étiquettes et aux standards des autres, parce que de toute façon, tu vas faire le chemin inverse un jour, jusqu'au point que ce sera inspirant, que ce sera vrai, que ce sera serein, que ce sera confiant à l'intérieur de toi, et que ce sera ton leitmotiv de vie, tu vois. Donc, je crois que je dirais ça.
J'aime beaucoup. Ouais, c'est beau comme message.
Et toi, tu dirais quoi ?
Moi, je lui dirais... Oh, c'est une bonne question que je me suis pas posée depuis longtemps. Je lui dirais que c'est OK d'être inconfortable pour les autres. Franchement, je pense que ça a été un des plus gros apprentissages que j'ai eu ces dernières années. Je croyais que je pouvais pas être aimée si j'étais inconfortable pour les autres. Et du coup, j'essayais à tout prix d'être confortable pour tout le monde, tu vois. Mais du coup, j'étais pas moi-même. Et du coup, je me sentais pas alignée à moi, je me sentais pas bien avec moi. Et paradoxalement, ça m'empêchait d'être vraiment aimée pour ce que je suis, tu vois. Donc, je dirais que c'est OK d'être inconfortable pour les autres et que c'est même bénéfique de l'être. Qu'il y a plein de bénéfices à ça et que je dirais qu'elle mérite d'être aimée comme elle est, même en étant inconfortable pour les autres, quoi.
Ça résonne grave. C'est un vrai sujet. Ouais. Franchement, limite, il faut refaire un sujet là-dessus, quoi.
Ouais, c'est clair.
Être inconfortable pour les autres.
Ça, c'est tellement important. Et tellement... Et je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à avoir cette peur d'être inconfortable pour les autres.
Ouais, sauf que le truc, c'est que tu le seras même si tu veux pas.
Ouais, tu le seras. Et puis, tu seras inconfortable à l'intérieur de toi.
Tu te tords.
Ouais.
Tu te tords, tu te tues, tu te bouffes, tu te... C'est un vrai sujet, ça je kifferais en parler avec toi aussi.
Ouais,
c'est un vrai sujet de fou. Merci, hein. Merci de partager ça.
Bah, avec plaisir, merci à toi. C'était trop trop bien.
Bon,
j'ai trop
très
aimé.
Contente. Merci beaucoup.
Ouais, franchement, c'était
très
trop cool. Et puis on va partager tous tes réseaux, ton podcast, etc.
Très bien. Merci Mariam.
Merci.
Bye bye.
Bye bye.